Bien, bien écoutez, bonsoir, bienvenue à cette cinquième...
Tu veux là ?
Ah oui, s'il te plaît, merci. À cette cinquième session consacrée aux origines de la pensée bouddhique. Ce soir, je crois qu'on est un petit peu, même nettement moins nombreux qu'à l'habitude. Donc je pense qu'il faut qu'on s'en serve. Donc on va pouvoir être en plus petit groupe. Ça pourrait être également peut-être davantage participatif d'une manière plus informelle et plus facile. Donc ça, ce sera pour la fois prochaine. Alors, quelques informations. Je vous avais donné quelques ouvrages de biographie auparavant, notamment le livre de André Barrault, En suivant le Bouddha, et également le Dharmapada, donc où il y a différentes traductions qui existent en édition de poche, notamment chez Flammarion, Le Seuil, etc. Alors je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont lu ou qui ont commencé à regarder ces livres. Je vous les conseille quand même vivement. Ce soir, je vais citer un autre livre, qui est un livre qui est plus difficile que les deux livres dont je vous ai parlé précédemment, qui est un livre qui est écrit, je pense qu'à la fin, Emmanuel nous amènera le script de la conférence, donc vous aurez les coordonnées de cet ouvrage. C'est un ouvrage écrit par Guy Bugeaud, qui était un spécialiste de la pensée indienne, et qui est un livre qui s'appelle « L'Inde pense-t-elle ?» Bon, avec un titre qui est un petit peu provocateur et amusant, mais le livre, lui, par contre, est extrêmement sérieux. « L'Inde pense-t-elle ?» Mais le livre, lui, par contre, est extrêmement sérieux et est tout à fait documenté et très réfléchi. Alors, parce que ce soir, il y a un certain nombre de choses que je vais dire qui font référence un peu à ce livre. Bon, enfin, je vais essayer d'être explicite. Alors, au fil des sessions précédentes, nous avons étudié les origines de la pensée bouddhique, c'est-à-dire le monde culturel dans lequel le bouddhisme est né, et ensuite de quoi on a vu en deux sessions le premier enseignement délivré par le Bouddha, à savoir les quatre vérités, qu'on étudie en deux sessions, c'est-à-dire deux vérités à chaque fois. Je vous l'avais dit à l'époque, quand on étudiait les quatre vérités, c'est un système d'enseignement du bouddhisme, c'est le premier, c'est un système qui est frontière entre le bouddhisme et la pensée non-bouddhique. C'est-à-dire que c'est un système qui était, on pourrait dire, destiné quelque part à des non-bouddhistes, ou à des gens qui n'étaient pas encore familiarisés avec l'enseignement du Bouddha. Alors aujourd'hui, on va étudier un autre concept qui est lié au début de la pensée bouddhique, mais qui lui est déjà plus profond et qui s'appelle la production conditionnée. Alors on va peut-être profiter justement qu'on est assez peu nombreux ce soir pour vraiment s'il y a dans ce que je dis des choses qui sont pas claires parce que je suis trop familiarisé avec et que je passe trop rapidement dessus, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Parce que le but, c'est que justement, on arrive à mieux cerner, à mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans la plupart des livres qui existent en français, où on parle de la production conditionnée, en fait, on n'aborde pas du tout, ou extrêmement peu, ce dont je vais parler ce soir. Parce que, si vous voyez, ces livres sont faits par des gens qui appartiennent à différentes écoles représentatives du bouddhisme, que ce soit japonais, chinois, indien, tibétain, ou tout ce que l'on voudra. Et dans ces écoles, il y a une vue de la production conditionnée qui est immédiatement, on pourrait dire, technique, qui est immédiatement très précise. C'est-à-dire que donc on apprend la production conditionnée comme étant une suite de 12 facteurs où chacun amène forcément le suivant. Donc de facteurs, on parle de liens causaux, d'enchaînement. Et ça, c'est ce que nous étudierons à partir de la fois prochaine. Mais maintenant, dans la présentation qu'on fait, je vois surtout au Japon du bouddhisme, donc dans un certain nombre d'ouvrages japonais que j'ai consultés, notamment un qui est écrit par un certain Mizuno Kogen, qui est un penseur contemporain du bouddhisme. Ces gens-là connaissent la pensée occidentale. C'est-à-dire que ce n'est plus le monde de l'extrême-orient, au même titre que nous, ce soir, en tant qu'occidentaux, on étudie le bouddhisme, qui est une doctrine qui vient de l'extrême-orient. Eh bien, les extrêmes-orientaux aussi, ils étudient, et ils ont étudié depuis un peu plus d'un siècle, les pensées qui sont liées à l'Occident. Et finalement, des gens comme Mizuno Kogen, par exemple, en étudiant la pensée occidentale, se sont rendus compte que dans les principes bouddhiques, il y a une originalité qui n'était peut-être pas perçue par les gens du cru, par les gens, les Chinois, les Japonais, les Indiens, etc., les gens qui avaient appris le bouddhisme et pour lesquels ça faisait partie de la culture. Et donc, il y a certains aspects du bouddhisme qui apparaissent, qui pour ces intellectuels japonais, dans le cas qui concerne lui, est apparu par contraste avec la pensée occidentale. Et du coup, il s'est dit, et ce soir beaucoup de choses que je vais dire viennent des livres de ce penseur, il s'est dit, si on veut faire une présentation logique de la doctrine bouddhique, il faut, en premier, dans un concept comme la production conditionnée, dire d'une manière explicite pourquoi c'est original. C'est-à-dire que si on entre directement dans le vif du sujet en disant, eh ben voilà, la production conditionnée, c'est 12 facteurs qui interagissent les uns sur les autres. Le premier, c'est ça, le deuxième, c'est ça, le troisième, c'est ça. En fait, on reste dans une approche qui est technique, on pourrait dire, du problème. Et donc, on le décortique bien et on amène des choses qui sont intéressantes. Mais en premier, pour présenter ce phénomène, le présenter de manière générale et dire qu'est-ce qu'il a d'original, qu'est-ce qu'il a de remarquable. Et donc, ce qu'il a de remarquable, enfin, ce qu'on va essayer de voir, c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, production conditionnée, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le terme en lui-même n'est pas extrêmement parlant. Et bon, c'est une manière de traduire un terme sanskrit qui a ensuite été lui-même traduit en chinois. C'est-à-dire que la production, c'est le fait qu'il y ait des choses qui apparaissent, qui se produisent. Et conditionner, c'est-à-dire que ça n'apparaît pas par hasard, ça n'apparaît pas d'une manière absurde. C'est-à-dire que toute chose qui apparaît, apparaît parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont causé cette chose. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un système qui est extrêmement relatif, où parce qu'il y a une chose qui existe, il doit y en avoir une autre qui existe. On est dans un univers qui est complètement en mouvement. Alors, ce que je dis n'est pas valable uniquement des choses d'ordre physique ou matériel. Pour la pensée, c'est pareil. Il n'y a pas une pensée qui émerge de rien. Il y a une pensée qui est là parce qu'il y a une autre pensée avant. Il y a une pensée qui est là parce qu'il y a un certain nombre de perceptions que l'on a de l'extérieur, de différentes choses, qui d'un coup accaparent notre attention et d'un coup je pense à quelque chose qui n'est pas ce à quoi je pensais il y a une seconde. Et donc, la production conditionnée signifie que les phénomènes ne sont pas pris en quelque sorte dans leur, dans leur individualité, c'est-à-dire que je ne parle pas, il y a le phénomène qui est là, il s'est passé ça. D'accord, il s'est passé ça, mais pourquoi ? Quelles étaient les causes extérieures, quelles étaient les causes internes de ce phénomène. Donc, on est toujours dans... Il se passe toujours des choses qui sont conditionnées par d'autres choses. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est le... C'est-à-dire qu'à chaque fois où je veux parler de quelque chose en le définissant, en le spécifiant, j'ai besoin de faire ça pour effectivement pouvoir en parler, mais du coup, je l'isole du reste. Or, c'est le reste qui a généré cette chose-là. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le détail. Alors, le terme, comme toujours un petit peu dans ce que nous faisons, on va voir l'étymologie. Le terme sanskrit qui a donné la production conditionnée, c'est pratikya. Pratikya. Un trait, parce qu'en fait il y a deux mots, samutada. Alors, le terme, maintenant qu'on le lit, le terme pratikya n'est pas extrêmement clair. On a du mal à voir, enfin du moins pour les livres que j'ai consultés, l'origine exacte de ce terme. Il semble que ce soit un terme qui soit employé notamment pour compter des choses successives et pour désigner chacun des éléments. Un peu comme en français M. Quand je dis le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Par exemple, hein. Donc c'est-à-dire que quand il y a une succession de choses, c'est quelque chose qui désignerait, qui permettrait d'être accolé à chacun des éléments constituants de la suite. C'est l'une des interprétations que l'on a aujourd'hui de ce terme, il y en a d'autres. Par contre, le terme samupada est relativement clair, il existe encore à l'heure actuelle, et c'est un verbe qui signifie avoir lieu, se produire, apparaître. Et donc, c'est ce qui, en français, nous donne le terme production. Donc, c'est ce qui a lieu, c'est ce qui se manifeste, c'est ce qui se produit, c'est ce qui apparaît. Quand le bouddhisme est passé en Chine, on l'a, ce terme-là, on l'a désigné par une expression qui n'existait pas auparavant, qui s'appelle en chinois Yuan Qi. Alors, dans la manière dont, à l'heure actuelle, on transcrit le chinois, ça s'écrit comme ça, Yuan, donc ça c'est encore bon, mais Qi, en fait, on le transcrit actuellement dans le système de notation chinois par la lettre Q. Alors, c'est vrai qu'en français, il n'y a pas tellement de lien avec le son Qi, mais c'est la manière que l'on a actuellement, c'est ce qu'on appelle la manière pinyin de traduire le chinois, qui est globalement une manière de transcrire qui existe depuis, c'est à peu près 1960, quelque chose comme ça, après la révolution culturelle en tous les cas en Chine. Mais maintenant, tous les mots chinois, les noms de villes, les termes, etc., que vous trouverez, sont transcrits à travers le système de prononciation qui c'est vrai, à partir du français, n'est pas très explicite. La raison qu'il y avait à l'époque, c'est qu'à l'époque, avant qu'il y ait le divorce vraiment entre la Chine communiste et l'URSS à l'époque, il y a beaucoup de, au niveau de la linguistique et tout ça, il y avait beaucoup de conseillers soviétiques qui étaient en Chine. Et c'est vrai que vis-à-vis de l'alphabet, alors je ne parle pas le russe, donc c'est ce que j'entends dire, mais que vis-à-vis de l'alphabet cyrillique, ça comprend davantage cette transcription. Enfin bon, c'est un aparté, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet. En japonais, ça se dit Engi, la même chose. Alors là, par contre, le chinois est quand même beaucoup plus pratique à cerner que le sanskrit, parce que la manière Yuan Qi, ça s'écrit comme ceci en chinois, vous trouverez sur le Yuan et Qi. Et donc, Yuan Qi, Qi, ça veut dire justement se produire. C'est même le caractère qu'on emploie pour dire se lever, par exemple, pour quelqu'un qui est allongé, qui se lève. C'est que la chose apparaît, la chose se manifeste. Et Yuan, c'est intéressant parce que Yuan, c'est, on peut dire que c'est le facteur, l'élément extérieur, ce qui permet que quelque chose se produise. Une sorte de cause extérieure. Les conditions. Je ne sais pas si c'est... Donc, c'est que la chose se produit parce qu'il y a d'autres choses qui l'appellent. La chose se produit parce que les conditions de son existence sont réunies. Donc, la chose passe d'un statut, on pourrait dire, de potentialité à un statut d'actualité parce que tout permet que cet état de choses existe. Je ne sais pas si c'est très clair comme définition. C'est-à-dire que finalement, ce qui se produit n'a pas en lui-même sa propre raison d'être. Il y a un ensemble de facteurs, de conditions qui fait que la chose qui se produit puisse se produire. Alors, dans certains ouvrages, pour traduire le terme de production conditionnée, vous trouverez l'expression, ou ça fait un néologisme, coproduction conditionnée. Pour justement mieux voir, mieux montrer que tous ces facteurs qui permettent qu'une chose se produise interagissent mutuellement entre eux. C'est-à-dire qu'une fois que la chose est produite, du coup, elle-même est un facteur vis-à-vis d'autre chose. Donc tous, non seulement, on ne peut pas rester simplement au niveau de voir un seul phénomène qui apparaît, parce qu'en réalité, ce n'est jamais cela. Il n'y a jamais un phénomène qui apparaît et puis plus rien. Il y a sans cesse des phénomènes qui jouent mutuellement les uns sur les autres. Alors, au mot à mot, si je traduisais, mais enfin évidemment ce ne sera pas très littéral, production conditionnée, on pourrait traduire par se produire selon. si on prend Yuan Qi, se produire selon. Donc là, on est vraiment au sens étymologique du terme. Les choses qui se produisent, elles se produisent parce que. Et alors c'est vrai que nous, quand nous regardons les choses qui se produisent, on est dans un premier temps, si on les remarque, c'est que ces choses ont quelque chose de remarquable pour nous, et donc on est intéressé par les choses elles-mêmes, et non pas par les raisons qui ont amené cette production. Quand on avait étudié la fois dernière les quatre vérités, on a bien vu que c'est toujours la démarche du bouddhisme, c'est-à-dire, ok, il y a un phénomène qui est là, mais il est là pourquoi ? Vis-à-vis de la première vérité qui était la vérité de la souffrance, le bouddhisme, dire qu'il y a de la souffrance, ce n'est qu'un constat. En soi, ça mène rien. C'est-à-dire qu'on remarque qu'il y a de la souffrance dans le monde, dans sa vie à soi. Donc ça, c'est très vrai. Mais ensuite de quoi, on dit, d'accord, mais s'il y a de la souffrance, quel est le terrain apparitionnel de la souffrance ? C'est-à-dire, quel est le terrain qui permet que la souffrance existe ? Parce que on ne pourra pas jouer au niveau de la souffrance. On ne pourra pas, si on ne modifie pas le terrain qui fait que la souffrance apparaisse, on pourra modifier le cours d'expression de la souffrance, mais elle réapparaîtra sous des formes et sous d'autres. Et donc, tant qu'on est seulement à jouer au niveau des effets, on peut changer le cours des choses, mais on n'en change pas la nature. C'est comme, vous avez un tuyau qui fuit par de nombreux trous. Ok, vous pouvez colmater des trous, mais enfin, ce qu'il faudra, c'est fermer le robinet. Donc, il faut jouer sur les causes des choses plus que sur leurs effets. Par contre, c'est vrai qu'il y a des cas où, quand l'effet apparaît, on est pris à la gorge. Il faut quand même réagir. Il y a des moments où il faut cesser de s'interroger d'un point de vue philosophique. Mais ensuite de quoi, quand on revient un petit peu au calme, d'une certaine manière, il faut être capable de s'interroger sur qu'est-ce qui a généré. Et donc, la production conditionnée, la production selon des facteurs, quels sont les facteurs, à chaque fois, donc, qui varient évidemment d'un phénomène à l'autre. La production conditionnée, donc, renvoie à la raison de l'apparition des phénomènes, aux conditions de leur apparition elles-mêmes. Ce principe, donc, révèle l'interdépendance des phénomènes entre eux. C'est-à-dire qu'effectivement, pour comprendre un phénomène, j'ai besoin de l'isoler du reste, mais il ne faut pas que je m'illusionne. Dans cette opération que j'ai faite pour séparer quelque chose du reste, il y a quelque chose qui est extrêmement artificiel et qui, d'une certaine manière, va profondément gêner ma compréhension. Mais c'est quand même une opération de la conscience qui est nécessaire. C'est-à-dire que le propre de la conscience est de séparer les choses entre elles. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas séparées de cette manière. Elles ne sont pas séparées du tout même. Alors, une première constatation vis-à-vis de cette notion de production conditionnée, ça signifie que du coup, pour le bouddhisme, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler le hasard. C'est la première chose qui tombe sous le sens. C'est-à-dire que si tout se produit par des raisons, des facteurs multiples qui font que la chose se produit, c'est-à-dire que ça ne se produit pas pour rien. C'est la première chose. Et là, surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand on parle de choses qui se produisent, ce n'est pas simplement des phénomènes physiques, c'est également les choses que l'on ressent. C'est-à-dire que ce qui apparaît, les phénomènes qui apparaissent et qu'il y a dans chacune de nos existences, qui nous causent de la joie, de la tristesse, toutes les émotions humaines, tous les problèmes, tout ce que vous voudrez, eh bien, ces choses, il y a des raisons à leur apparition. Donc c'est une vue, comme je vous l'ai dit, qui récuse la notion de hasard, et dans laquelle on pourrait dire que simplement le hasard, c'est le nom qu'on donne aux causes que l'on ne comprend pas. Je ne comprends pas pourquoi il m'est arrivé ça à moi, et donc c'est le hasard. Mais en fait, c'est pas un phénomène de hasard total, c'est simplement un phénomène de mécompréhension au niveau qui est le mien. Peut-être, alors, je ne sais pas, ça dépend à chacun de nous de se prononcer. Mais c'est vrai, celui qu'on expose le bouddhisme, finalement, c'est beaucoup de choses, c'est extrêmement rationnel. Je veux dire, quand même, pour la plupart d'entre nous, mais en fait, ça, c'est pas encore de chacun d'entre nous, j'ai pas l'impression que la vision qu'on a de notre propre vie soit aussi limpide que cela. Le bouddhisme, donc, du coup, ne croit pas dans le hasard, mais il se distingue également des autres religions du monde. Bon, certaines sont nées à peu près à la même époque que lui, d'autres sont antérieures, d'autres ont été postérieures, qui, elles, veulent voir une sorte de cause première des phénomènes. Parce que la notion de production conditionnée signifie, alors c'est quand même quelque chose qui est assez troublant, que tout influence tout. C'est-à-dire que, à des degrés divers, mais chacun des constituants est influencé par la totalité de tous les autres constituants. Et donc, finalement, il n'y a pas de cause, de ce point de vue-là, il n'y a pas de cause première, il n'y a pas de chose motrice, et dont tout le reste, en quelque sorte, ne serait qu'une sorte de conséquence, à des degrés parfois très lointains. Par exemple, à peu près à la même époque que le bouddhisme, les matérialistes grecs de l'Antiquité pensaient qu'en fait, il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de déclivité. Même chez Lucrèce, par exemple, on trouve ça du monde, de la matière même, et qui fait qu'après cette déclivité donne une sorte de première impulsion, et dont tout ce que l'on constate ne serait qu'une sorte de conséquence très lointaine. Mais il faut qu'il y ait une sorte de premier mouvement qui mette en quelque sorte la machine en marche, et puis ensuite de quoi les choses s'entrechoquent, c'est une sorte de billard, quoi. Les choses s'entrechoquent, et là où on voit finalement des mouvements qui peuvent nous sembler tout à fait absurdes, erratiques et autres, en fait c'est simplement une conséquence très très lointaine d'une sorte de tendance naturelle. Mais dans le bouddhisme, il n'y a pas cette idée, c'est-à-dire d'une sorte de cause première, dont tout le reste ne serait, qui dans beaucoup de religions est vu comme une sorte de volonté divine, ou de verbe qui se manifeste, ou de quelque chose comme ça, et dont ensuite le reste découle. C'est-à-dire qu'une fois que la machine est lancée, une fois que la création est faite, ben la création elle va sa vie. Dans le bouddhisme, il n'y a jamais eu de création au sens propre du terme. Il y a toujours eu et il y aura toujours un ensemble de phénomènes qui s'interpénètrent, qui s'influencent mutuellement les uns les autres. On est dans une sorte de. C'est pour ça que les gens qui ont traduit ce terme, c'est ce qu'ont voulu rendre les gens qui ont traduit ce terme par coproduction conditionnée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de cause première qui donnerait une cause deuxième, qui donnerait une cause troisième, une quatrième, etc. Il y a une infinité de causes qui courent en même temps, et dont chacune est relativement indépendante des autres, et où toutes s'influencent. C'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'interrelativisme qui est total et général, où chacun des éléments de ce monde, en quelque sorte, résulte de deux facteurs qui eux-mêmes ont été générés par des causes diverses, et ainsi de suite. Tout ça à la fin, si vous voulez, ça vous donne un système qui, à mon avis, n'est pas réducteur, mais qui est pratiquement vertigineux. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'effectivement, si on explique le monde en disant il y a une sorte de cause première, qu'elle soit ce que vous voudrez, qu'elle soit physique, qu'elle soit liée à une divinité, qu'elle soit. C'est une manière d'ordonner le monde, d'expliquer le monde comme cela. Alors que le bouddhisme, qui pourtant ne présente pas un monde en chaos pour autant, parce que je vous dis, il ne croit pas au hasard pour autant, mais il se rend compte que finalement, les choses sont beaucoup plus complexes et s'interpénètrent, s'influencent mutuellement à des degrés extrêmement divers. Déjà, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on avait vu dans les sessions du mois de janvier, quand j'ai parlé de la production des actes. Parce qu'effectivement, au niveau de la production des actes, on dit dans le bouddhisme que donc vous rappelez qu'il y a des actes qui sont à la fois, enfin qui peuvent être ou des actes de l'esprit, des actes mentaux, ou des actes vocaux, c'est-à-dire des actes de la bouche, de la voix, ou alors des actes corporels. Mais qu'en fait, la personne, on a vu, est constituée de ces actes dont il est producteur. Mais que chaque acte qui est effectué par la personne, d'une certaine manière, on pourrait dire change le monde. Alors évidemment, ça ne change pas radicalement, hein. C'est pas parce que je vais bouger d'une certaine manière ou n'importe quoi que l'univers est entièrement bouleversé ou quoi que ce soit. Mais on voit bien que nous, dans la perception que nous avons du vivant, dans la perception que nous avons de notre propre vie, donc ce qui est une perception intérieure qui est propre à chacun de nous, chacun des actes que l'on fait change la donne. Alors, en petit ou en grand, hein, il y a des actes qu'on fait qui ont une portée qui est infime, et puis il y a des actes que l'on fait qui ont une portée considérable, enfin au moins pour nous. Hein. Et donc, la personne, de ce point de vue-là, est l'accumulation, on pourrait dire, de ses propres actes. C'est une idée où tout phénomène a une ou plusieurs causes précises. Et alors, il y a une autre idée, parce que vous allez voir que c'est quand même une affaire qui peut sembler simple hein, comme ça, mais qui a des conséquences tout à fait étonnantes. Si tous les phénomènes ont une ou plusieurs causes, ça signifie que la cause des phénomènes n'est pas en eux. C'est assez bizarre. Enfin, il y a une cause, probablement, qui peut être en eux, mais il y a des causes apparitionnelles des phénomènes qui sont extérieures. C'est-à-dire que pour que les choses nous touchent, il faut bien qu'elles aient une forme d'apparition extérieure. Et pour qu'elles aient... Donc là, on est en train de remonter le mécanisme dans l'autre sens. Et pour qu'elles aient une apparition extérieure, il faut bien qu'il y ait des facteurs, un changement de l'extérieur qui permettent l'apparition de ces choses. Parce que si elles n'étaient pas là il y a une seconde et si rien n'a changé, il n'y a aucune raison qu'elles soient là maintenant. Alors donc vous voyez qu'on est quand même dans un monde là du coup qui est extrêmement relatif, qui est un monde qui est en mouvement et qui est un monde qu'on ne peut pas expliquer simplement. Et c'est vrai que la tentation, c'est de donner l'explication simple, quelle qu'elle soit. Hein. Dire c'est le sens de l'histoire, ou c'est, je sais pas, la volonté divine, ou c'est ce que vous voudrez. Parce que, même si on l'applique à ces choses-là, si on applique le système de la production conditionnée à ce que je viens de dire, c'est la volonté divine, ou c'est le sens de l'histoire, ou quelque explication que vous voudrez, eh ben on dit, ok, on prend la notion de volonté divine. Quels sont... Donc c'est un phénomène, ok, donc on dit il y a un concept qui s'appelle la volonté divine ou le sens de l'histoire. À la fin des temps, il y aura la dictature du prolétariat, d'accord, pas de problème. On prend cette notion et on dit, d'accord, donc le sens de l'histoire, la volonté divine ou ce que vous voudrez, hein, le truc fondateur en quelque sorte, eh bien du point de vue de la production conditionnée, quels sont les facteurs qui permettent l'émergence de l'idée de la volonté divine ou du sens de l'histoire. Vous voyez, c'est un système qui est assez redoutable. Parce que finalement, on se rend bien compte, c'est un système qui est assez logique, qu'une partie des causes qui font que quelque chose existe est extérieure à la chose elle-même. Elle est dépourvue de sa propre raison d'être. Donc je peux l'appliquer au concept aussi, si je veux. Et donc, d'accord, bon, ben pour qu'on pense volonté divine, il faut quoi comme facteur? Et dès qu'on commence à les lister, eh ben, la chose, d'elle-même, elle devient interdépendante avec le reste. Et on a du mal à la sortir, en quelque sorte, comme fil conducteur et unique. Je vais revenir par la suite un petit peu sur cette notion. Alors, donc ces phénomènes qui apparaissent, ils sont également jugés comme étant provisoires, donc provisoires dans la durée, dans le temps. Pourquoi ? Parce que l'observation simple nous montre qu'ils sont soumis à la naissance, à la modification et à la disparition. Je ne connais rien, si je veux parler honnêtement et sincèrement, de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, je ne connais rien qui ne soit pas né d'une manière ou d'une autre, qui ne soit pas paru à une certaine époque, qui soit resté tel quel, donc qui ne soit pas modifié, et qui ou bien n'est pas disparu, ou bien ne soit pas promis à la disparition. C'est-à-dire que le fait que tout s'influence mutuellement, ça veut dire que chaque élément est sans cesse, on pourrait dire, altéré par tous les autres éléments, à des degrés plus ou moins forts. Et que cette altération va finir par lui faire perdre son intégrité. Alors, une autre chose là-dessus, c'est-à-dire que les premiers penseurs du bouddhisme, à commencer par le personnage qu'on appelle le Bouddha lui-même, qui ont systématisé et créer cette notion de production conditionnée, se sont bien gardés d'en dire qu'ils en étaient les créateurs. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu quelque chose qui leur préexistait, on peut dire, et dont ils ont juste été les interprètes, finalement. Mais ils ne se sont pas du tout placés comme étant... comme beaucoup de penseurs, de prophètes, etc., de ces époques-là, comme étant, ils ont remarqué quelque chose du monde. Mais ils ne disent pas que pour autant, ils sont investis d'une mission ou qu'ils ont été frappés par par la révélation ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il donne un système de compréhension du monde. Alors c'est vrai qu'il, dans un premier temps, révèle surtout la complexité du monde, mais ils disent, si vous ne prenez pas en compte cette complexité, vous arriverez à des formes de simplification qui peuvent être génératrices d'erreurs énormes. Alors, quand on l'explique dans un premier temps, ce système de la production conditionnée peut apparaître comme étant relativement simple, parce que ça part de choses qui semblent, je dirais, quasiment évidentes, mais vous allez voir que, parce qu'il faut laisser aussi aux idées un peu le temps de faire leur chemin, mais que plus on y réfléchit, et plus ça devient quelque chose qui est extrêmement profond, lourd de conséquences. Il y a, dès l'origine du bouddhisme, on essaie d'expliquer ce système par un certain nombre de petites maximes qui en donnent une vue simple. Alors, je vous l'ai dit, hein, donc, d'ailleurs, c'est très simple. Hein. Ceci étant, cela est. Ceci naissant, cela naît. Ceci n'étant pas, cela n'est pas. Ceci disparaissant, cela disparaît. C'est-à-dire que, dès lors qu'il y a un phénomène, c'est parce qu'un autre ou plusieurs autres phénomènes existent. Que le ou les plusieurs phénomènes qui préexistaient, qui conditionnaient l'existence du phénomène qui m'intéresse, disparaissent, et je n'ai plus le phénomène qui m'intéressait. Que cet état de choses, se rassemble à nouveau, et je l'ai de nouveau peut-être. Les phénomènes qui sont constatés apparaissent selon diverses circonstances. Que celles-ci se modifient, les phénomènes aussi se transforment. Du coup, la pratique de la voie bouddhique s'inscrit donc dans le mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui est statique. Dans le bouddhisme primitif, cette notion de concept, ce concept de production conditionnée est devenue, surtout pour les gens d'ailleurs qui n'étaient pas bouddhistes, le synonyme de la doctrine bouddhique. Parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était là un peu que reposait la différence entre le bouddhisme et les autres pensées qu'il y avait à l'époque. Et effectivement, si on compare la doctrine bouddhique à d'autres formes de pensée qui l'ont été à peu près contemporaines, l'une des premières différences, c'est effectivement cette notion de production conditionnée. Et donc, pour les gens qui étaient extérieurs au bouddhisme, vu qu'en chinois, ça s'écrit juste avec deux idéogrammes et que tout le monde comprenait, alors je ne dis pas qu'ils comprenaient toutes les implications de la chose, mais quand ils lisaient les idéogrammes, donc les Chinois de l'époque, ils comprenaient se produire selon. Et rien que quand on dit ça, finalement, le principe, d'une certaine manière, est résumé. Et donc, les gens qui voyaient ces deux idéogrammes, pour eux, ça représentait le bouddhisme. Et dans certains recueils bouddhiques, je trouvais cette phrase, « Celui qui contemple la production conditionnée contemple la loi. » La loi, je reviendrai sur le terme tout à l'heure. Et celui qui contemple la loi contemple la production conditionnée. Donc là, on est vraiment à un niveau où il y a une sorte d'égalité entre ce concept de production conditionnée et ce qu'on appelle ici la loi, c'est-à-dire le dharma dont j'ai parlé dans les premières sessions, qui est dans cette phrase-là, qui représente la doctrine bouddhique. C'est-à-dire que dans la production conditionnée, on aurait une sorte de d'essence de la doctrine bouddhique. Une autre phrase que j'ai trouvée, celui qui contemple la production conditionnée contemple la loi, et celui qui contemple la loi me contemple. C'est le Bouddha qui parle. La notion de production conditionnée va nous amener vers une autre notion fondamentale du bouddhisme dont je vais parler maintenant, et dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la notion de vacuité. Je vais un peu la commenter parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et qui souvent dans les présentations qui est faites est mal cerné dès le départ et donc ensuite on part dans des directions je dirais extrêmement diverses mais qui ne sont pas parce que le terme par lui-même, enfin bon je vais l'expliquer en détail, les gens sont effectivement troublés par l'aspect de vide qu'il y a dans la vacuité, et puis ensuite ils interprètent le vide d'une manière, un petit peu liée aux différentes notions modernes qu'on a vis-à-vis du vide, et finalement ils essaient de faire avec tout ça une sorte de je sais pas quoi exactement, et à la fin on arrive à quelque chose qui est extrêmement peu clair. Or, comme le dit les enseignements du bouddhisme, le dharma, la loi bouddhique, est tout sauf vague. C'est-à-dire que si la chose est comprise, elle peut être précise. On ne dit pas qu'elle peut être exprimée toujours d'une manière extrêmement précise, parce que le problème, parfois, c'est les mots. Et les mots, il y a beaucoup de cas où ils ne peuvent pas aller au-delà de ce pourquoi ils sont faits. Mais, au moins, la pensée bouddhique, et j'espère avoir pu quand même le montrer un petit peu au fil des différentes sessions qu'on a fait ensemble, est une pensée qui est d'une grande précision, à la fois dans les termes et dans l'enchaînement des idées. Parce que les penseurs du bouddhisme ont toujours prôné une réflexion extrêmement lucide et ont essayé, même si c'est tout à fait difficile, mais de se débarrasser d'un certain nombre de passions que nous avons, de troubles de l'esprit, qui fait qu'on réagit toujours aux choses, en premier dans un rapport où les choses nous semblent ou souhaitables ou à éviter. Donc on est toujours dans cette analyse de « je veux » ou bien « non, tout n'est pas ça ». Mais donc immédiatement, on est dans une position qui est liée à l'action et qui est liée au désir dans ce qu'on fait. Or, on a vu quand on avait étudié les quatre vérités que la deuxième d'entre elles, c'est-à-dire l'apparition, est ce terrain qui favorise l'émergence de la souffrance est lié au fait qu'on ne peut pas envisager lucidement les choses, mais qu'on plaque sur les choses un ensemble de désirs, et d'ailleurs d'une manière qui est assez... d'une manière qui est un peu incantatoire d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça va marcher, mais on pense, si je peux obtenir plus en désirant plus, au moins j'aurai pas moins, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Sans se rendre compte que dans ce raisonnement, qu'il y a quelque chose d'enfantin en grande partie, il y a vraiment l'une des causes de notre malheur. Alors, il y a un concept d'où vient ce terme de vacuité que j'ai marqué ici, qui est un concept bouddhique qui est celui de la triple vérité, dont je vais parler un petit peu aujourd'hui, qui est la vérité de ce qui est provisoire, de la vacuité du milieu. Bon, pour l'instant, ces termes vous sont sans doute un peu obscurs, mais on va les éclaircir. Alors, je vais commencer par la vacuité. Alors, la vacuité, c'est un terme sanscrit qui est sunyata, donc la qualité de souvenir de ce qui est vide. D'un point de vue étymologique, la vacuité. Les Chinois ont traduit ça par le terme Kong, que les Japonais prononcent Ku, qui signifie le vide d'ailleurs, qui signifie, et d'ailleurs c'est assez intéressant, le ciel. C'est l'un des mots en chinois qui désigne le ciel. Le terme normal pour désigner le ciel, c'est tien, qui est ce qui est au-dessus, et donc c'est ce qui est toujours au-dessus de l'homme, le ciel. C'est le terme normal. Alors quelle est la différence avec le terme, donc je l'enlève parce que c'est pas ce qui nous intéresse, quelle est la différence avec le terme Kong, c'est ça avec le ciel, comme on dit ici, l'éther par exemple, je pense. C'est-à-dire que je vois du ciel, par beau temps, hein, quand je regarde au-dessus de moi, je vois du ciel, je vois une couleur finalement, mais je vois rien. Parce que je vois rien, c'est-à-dire que même si je monte, toujours, finalement, je n'ai que de l'air au-dessus de moi. Enfin, sauf si à un moment donné, il y a un obstacle. Et donc, quand je dis le ciel, c'est-à-dire que je regarde vers le haut, et il n'y a rien, et ce rien, je le désigne par le terme ciel. Parce que ce rien, vis-à-vis du système de vision que nous avons, m'apparaît d'une certaine manière, c'est le ciel bleu. Mais pourtant, c'est du rien, enfin c'est de l'air, c'est physiquement ça forme de choses, et puis plus on monte et plus ça change de nature. Mais finalement, donc c'est pour ça qu'ils vont employer pour désigner ça le vide. Alors je ne dis pas que ce soit un vide physique, c'est-à-dire l'absence totale de matière, parce que c'est quand même un vide gazeux, on pourrait dire, mais je mets un concept là où il n'y a rien finalement, quand je regarde le ciel. Enfin du moins quand les Chinois qui ont inventé la langue chinoise il y a longtemps regardaient le ciel, ils ne voyaient rien. Et donc, ils ont appelé cette chose à laquelle nous prêtons des qualités, mais où il n'y a rien, ils vont intégrer le ciel et le vide en même temps. Donc, cette vacuité, telle qu'elle est reprise dans le bouddhisme, qu'est-ce que signifie la définition, on pourrait dire, la plus correcte, la plus proche, est que les choses sont dénuées, elles sont donc dénuées, c'est-à-dire vides, de nature propre. Alors, on va revenir sur cette affaire parce que c'est quelque chose qui ne tombe pas sous le sens. Je vais enlever les choses chinoises-japonaises et je vais marquer donc cette première définition et on va voir qu'est-ce qu'elle veut dire. Vide ou dénué ou sans nature propre. Le penseur qui a le plus systématisé toutes ces théories qui sont liées à la vacuité est un penseur indien qui date à peu près du 2e siècle de l'ère chrétienne et qui s'appelle Nagarjuna, qui était vraiment l'un des très très grands penseurs, c'est-à-dire qu'ils sont gardés que 5 ou 6, mettons, de la pensée bouddhique. Et lui, donc, c'est quelqu'un qui a poussé cette idée de la vacuité, même jusqu'à des extrêmes tout à fait étonnantes. Une partie de son œuvre, justement, a été traduit en français et d'une manière très très admirable, je trouve, par Bugeaud. Alors, cette notion de vacuité fait que, contrairement à l'impression immédiate que nous avons vis-à-vis des phénomènes, au bout du compte, chacun d'entre eux est dénué de nature propre, parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, chacun d'entre eux dépend d'autres choses, et souvent d'une infinité d'autres choses. C'est-à-dire que si les phénomènes avaient en eux-mêmes leur propre raison d'exister, s'ils venaient à se manifester de par une sorte de raison d'être, on pourrait presque dire de volonté qui leur serait propre, ils auraient une nature propre. Mais vu que finalement tout apparaît comme étant la résultante d'une infinité ou d'un grand nombre en tous les cas de choses, du coup les choses se trouvent privées d'une nature propre, même si nous, quand pour les identifier on doit les séparer du reste et donc on doit les nommer, on doit leur donner des qualités, donc on leur confère, c'est nous qui leur conférons une nature propre, mais les choses, elles n'en ont pas, les choses, les états d'âme, les êtres, etc. Vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même très qui va à l'inverse de beaucoup de choses que l'on penserait facilement, naturellement, et du coup, c'est parce qu'elles sont dénuées de nature propre qu'elles peuvent se modifier. Parce que quelque chose qui aurait, je sais pas moi, une sorte d'étalon or ou quelque chose comme ça, qui serait dur, qui aurait sa propre raison d'exister, qui aurait sa propre intégrité totale, eh bien, il resterait dans le même état qu'il est. Or, quelque chose qui se modifie, c'est qu'il y a eu bel et bien des actions extérieures sur lui qui l'ont modifié, que vu que lui a été modifié, il a été lui-même différent vis-à-vis de l'extérieur. On voit cette espèce de jeu d'interrelativité qui fait que les choses se conditionnent mutuellement. Pour qu'elles se conditionnent mutuellement, elles n'ont pas, elles sont, on voudrait nous trouver en elles une sorte de nature propre ultime à chaque chose, qui parfois n'est simplement que le jugement qu'on a vis-à-vis d'elles, hein, mais au bout du compte, elles roulent pour leur propre compte. Elles n'ont pas cette nature que l'on leur prête, qui est ce qu'on appelle, en langage philosophique, une hypostase, c'est-à-dire une qualité qui est prêtée à une chose, mais qui fonctionne comme une image. En fait, c'est une projection. Ainsi, donc, tous les éléments du monde, on pourrait dire, de l'être, qui ont en commun cette espèce de vacuité, donc qui font qu'ils sont émus de nature propre, du coup, partagent une sorte d'égalité. C'est un monde à plat. Alors, quelles sont les raisons qui font que nous, si vous voulez, dans toutes nos opérations quotidiennes, nous prêtons une nature propre aux choses, une qualité aux choses, qui fait que, par exemple, je peux dire, cette table est jolie, ou elle est laide, d'accord, ou elle est pratique, ou elle est... Je vais le trouver, alors que cette table, si vous voulez, elle ne m'a rien demandé. C'est un morceau de bois, c'est une structure. On pourrait dire la même chose pour des choses d'ordre spirituel ou psychologique. Là, je prends pour que ce soit simple, un objet tout à fait tangible et matériel. Cette table elle-même, si vous voulez, c'est quelque chose qui, avant, c'était pas une table, c'était peut-être des arbres, ou je sais pas quoi, ou peut-être du pétrole qu'on a réussi à solidifier pour en faire quelque chose qui ressemble à du bois. Et donc, moi, vis-à-vis de cette chose, je vais lui prêter des qualités. Parfois, si je suis complètement dans l'erreur, je peux lui prêter des qualités qui n'ont rien à voir du tout avec la chose elle-même. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être même avoir un accident avec la chose. Bon, avec la table, ça paraît difficile que j'ai un accident, mais enfin, tout peut arriver quand même. Mais je crois que nous, dans cette manière que l'on a de prêter une nature, donc je dis la table, elle est pratique, l'eau, elle est désaltérante, le micro, il est, je sais pas quoi, enfin bon, toute chose. Un tel, il est sympathique, un tel, c'est le dernier des abrutis. Donc moi, je prête une nature propre, moi comme tout le monde, je suis pas le seul sur Terre. Je prête une nature propre, un stand de choses. Des choses qui m'arrivent, qui sont détestables, alors que d'autres personnes qui s'arriveraient diraient c'est formidable moi qui m'arrive ça. Donc je prête, c'est pas une opération consciente si vous voulez, mais je prête une nature propre comme tout le monde à toute chose. Je crois qu'il y a dans quelque chose qu'on pourrait dire qui est une sorte de mécanisme immunitaire, c'est-à-dire que dans ces projections que je fais continuellement sur toute chose, suivant l'usage que je peux en avoir, suivant l'esthétique qui est la mienne, je dis ça c'est vraiment très très laid, ou ça c'est vraiment très très beau, etc. Il y a une sorte, on pourrait dire, de presque de mécanisme de défense qui est sans doute à la base, qui était sans doute destiné aux peurs les plus profondes qui sont les nôtres. Enfin, du moins, c'est l'idée que j'ai. Les peurs les plus profondes sont en général vis-à-vis de l'innommable. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Par exemple, l'un des maîtres du début de la littérature fantastique, quelqu'un comme Lovecraft aux États-Unis, finalement arrive à susciter un sentiment d'épouvante extrêmement grand en ne décrivant rien, en disant que là, c'était vraiment insupportable. Mais il ne nous dit pas encore que les choses sont insupportables. Mais il arrive au fur et à mesure, si vous lisez certaines nouvelles de Lovecraft, à créer vraiment un sentiment de mal-être et d'épouvante extrêmement profond, et finalement sans se livrer à aucun détail qui pourrait nous dire pourquoi ce dont il parle, parce que c'est une histoire un peu à dormir debout quand même, pourquoi c'est autant effrayant que ça. Mais à la fin, en ne nommant pas les choses, il crée un mal-être qui est très très grand. Et il le dit, bon, c'est un homme tout à fait particulier, sans doute avec une problématique mentale assez rare. Pour avoir une idée, enfin bon, moi j'ai vu ça il y a longtemps, mais c'est quelqu'un qui je crois qu'il vivait, si mes souvenirs sont justes, à Baltimore, aux États-Unis, je pense que c'était au 19e siècle ou à la fin du 20e, enfin bon, toute chose qui m'apprête d'être vérifiée. Et c'était quelqu'un qui ne sortait que la nuit. Donc c'était une sorte de rentier qui vivait dans l'obscurité chez lui, qui inventait des histoires épouvantables. Et qui allait faire juste toutes les nuits une petite promenade comme ça, et qui revenait, et qui se nourrissait également d'une manière tout à fait particulière, enfin qui avait mené une existence tout à fait particulière. Et cette personne avait beaucoup réfléchi, notamment sur la littérature, et notamment sur la littérature fantastique, et il s'était demandé, enfin bon, c'est un peu une aparté, mais on va quand même revenir à notre sujet. Il avait essayé de voir dans les émotions humaines une sorte d'émotions fondamentales et qui seraient sans doute liées au stade très ancien de l'humanité. Et l'émotion qu'il trouve et qui lui semble, pour des raisons multiples, peut-être fondamentale, c'est la peur. C'est-à-dire que quand même, quand l'homme réfléchit à ce qui peut lui arriver, à ce qu'il fait, à ce qui se passe, il y a un peu qui ne ressentent pas la peur. Donc effectivement, c'est quelque chose contre quoi nous luttons, et nous avons un certain nombre de mécanismes. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mécanismes immunitaires, mais on a un certain nombre de mécanismes d'atténuation, de suspension de cette peur, de mise au rencard un peu de cette peur. Et finalement, dans les choses qui font peur à l'homme, il y a beaucoup de choses qui vivent à sa propre disparition. Et c'est l'une des sources, on pourrait dire, de peur, de peur réelle, de peur métaphysique, qui est très importante pour l'homme. On l'avait vu qu'on avait étudié dans les quatre vérités, la première, la souffrance, tout ce qui était lié à la mort. Et donc, dans le processus de constitution de l'identité, parce que finalement, vis-à-vis de la disparition que l'on sent de soi-même, la disparition, c'est pas seulement la mort, mais c'est également la disparition. Le petit enfant que j'étais, ben, il n'existe plus, le petit enfant que j'étais. C'est-à-dire, je l'ai vécu, j'en garde des souvenirs, je cours en culotte courte et tout, maintenant, je peux essayer de courir en culotte courte, mais je serai pas pour autant le petit enfant que j'étais. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène où ce qu'on appelle le temps, mais qui vaudrait encore la notion de temps étudiée du point de vue de la production conditionnée, où ce phénomène, on voit bien que les choses échappent d'une certaine manière. Et donc, la seule manière que j'ai d'empêcher, même si c'est, on pourrait dire, d'un point de vue réel, artificiel, mais au moins pour mon propre confort mental, moral, intellectuel, d'empêcher ça, c'est de créer de l'identité. Et donc, je crée de l'identité, c'est-à-dire que je dis, je suis le petit garçon que j'étais quand j'avais 8 ans. Bon, ce qui, n'importe qui le verrait de l'extérieur dirait, mais non, monsieur, vous n'êtes pas un petit garçon. Mais, il s'est transformé, mais je suis toujours moi. Même si je ne suis plus moi que j'étais dans le temps. Bon, on arrive à des choses, ça peut sembler un peu du Raymond Devos, quoi, mais je crois qu'il y a ce processus de construction de l'identité. Et donc, vis-à-vis de ce monde dont je perçois dans chacun des phénomènes la vacuité et qui va entraîner, on pourrait dire, ma propre vacuité, la première manière immunitaire que j'ai de réagir, c'est de me construire une identité. Et ça, je suis obligé de me construire, de briquet de broc, avec les choses que la vie m'apporte. Je suis le fils de mes parents, je suis né dans tel pays, je suis allé à l'école. Donc, au fur et à mesure, je me construis de l'identité. Et le propre de cette construction de l'identité, c'est que, vous voyez, le bouddhisme pose les choses d'une manière dont on ne les pose pas d'habitude, je pense. C'est que si j'ai une identité et pour que ce système marche, je ne peux pas être le seul à avoir une identité. Parce que si en quelque sorte je me reconnaissais à moi une nature propre, des caractéristiques, alors je me donne les caractéristiques que je veux, que je veux ou que je peux. Hein. C'est-à-dire que je dis, moi je suis un tel comme ça, je vote à gauche ou je vote à droite, ou j'aime tel plat culinaire, donc vous voyez, je construis, ou je suis philatéliste, moi je suis une collection de timbres, donc je me construis une identité. Eh bien, ce système ne marche pas si je suis le seul à avoir une identité. Parce que pour profiter de l'identité, il faut également que les autres choses aient une identité. Parce que si je dis, moi je suis la personne, mettons, qui aime tel plat, j'aime la tarte aux pommes, eh bien, il faut que je construise à la tarte aux pommes une identité qui est, c'est un mets qui est spécialement délicieux. Et donc, moi je suis quelqu'un d'extrêmement malin, parce que je suis celui qui aime les choses délicieuses. Si je dis je suis, l'homme qui vote à gauche ou l'homme qui vote à droite, etc., parce que le parti pour lequel je vote est un parti qui défend des causes justes. Je ne peux pas être en quelque sorte, je ne peux pas dire que je suis un homme qui vote à gauche ou qui vote à droite d'une manière absurde, parce qu'en ce cas, je ne me construis pas une identité. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je ne peux pas dire, bon, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec un plat culinaire peut paraître un petit peu, un peu bête comme ça, mais ça marche aussi. Si je vous dis et je vous parle pendant longtemps que je suis philatéliste, je collectionne les timbres, etc., et je ne peux pas à la fin terminer en vous disant, et puis d'ailleurs, vous savez, collectionner les timbres, c'est complètement vain comme histoire. Parce que vous allez dire, pourquoi il fait ça, lui? Et donc, je vais vous dire que la collection de timbres est quelque chose qui est absolument passionnant. Et la preuve, c'est que je suis philatéliste. Donc tout se recoupe. Et donc, dans cette manière que nous avons de créer et de construire l'identité et pour nous-mêmes et pour les choses, il y a une sorte de, ce que j'appelais tout à l'heure, de processus immunitaire vis-à-vis de la vacuité. Alors, on va voir que le bouddhisme, lui, va proposer d'autres processus, peut-être pas immunitaires, mais au moins participatifs. Alors donc, il y a un concept bouddhique qui est celui de la triple évidence ou de la triple vérité, c'est pas un mot traduit, dont la première est la vacuité, dont je viens de parler. Alors après, on pourra voir comment fonctionne le système. Dont la deuxième est ce qu'on appelle le caractère provisoire des choses, C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure en disant que bon, ben, finalement, toutes les choses, les états psychologiques, tout ce vrai qu'on voit, eh ben, ils naissent, ils se modifient et ils disparaissent. Donc, ils ont bel et bien un aspect qui est provisoire. On pourrait dire donc que de ce point de vue, la vacuité concerne d'une seule manière l'espace, c'est qu'on prend un ensemble de choses qui existent à un moment précis, et que le provisoire, lui, concerne la temporalité. Parce que là, je peux prendre les choses même une par une, si je veux, mais pour montrer qu'elles ne dureront pas toujours, et qu'elles ont commencé à un certain moment. Et donc, pour revenir à l'exemple, peut-être un peu simple, que je donnais tout à l'heure, vis-à-vis de la table, donc, constater le caractère provisoire de cette table, c'est de dire, et ça je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus, que cette table n'a pas existé de toute éternité, que c'est un produit qui a été fabriqué, qu'avant c'était un arbre, avant que l'arbre soit un arbre c'était autre chose, etc. et tout, et que cette table, elle ne durera pas éternellement. Donc c'est le caractère provisoire, on pourrait dire, de cette table. L'autre caractère, qui est celui de la vacuité, c'est là, on ne prend pas la table en quelque sorte dans ce qui a créé sa naissance et ce qui fera sa disparition, mais c'est de dire, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que dire, moi j'appelle ça une table, mais au bout du compte, parce que je projette des choses, et donc j'appelle ça une table, j'appelle ça une table noire, j'appelle ça une table pratique, j'appelle ça une table élégante ou moche, etc. C'est-à-dire que je projette un ensemble de choses sur la table qui aident n'a pas cette nature propre. On pourrait même aller plus loin en disant elle n'a même pas une nature propre de table. C'est-à-dire que c'est de la matière qui se trouve là à l'heure actuelle, et moi j'ai décidé c'est de la table. Dans des peuples où, je sais pas, où ils ne connaîtraient pas ce que c'est qu'une table, ils pourraient en avoir un usage complètement différent. Pour parler mais un peu marrant, il y avait un film qui s'appelait « Les dieux sont tombés sur la tête », où il y avait vraiment, en Afrique, dans des endroits extrêmement reculés, amener un aviateur qui passe et qui jette une bouteille de, je crois que c'était de Coca-Cola, enfin, oui, ça peut être ça, par la carlingue, et quand ça tombe en bas, personne peut penser que c'est une bouteille. Et donc des gens s'en servent pour faire des motifs sur le sable, et donc ils servent du goulot de la bouteille comme d'une sorte de pochoir. D'autres s'en servent de massue, d'autres, je ne sais même plus exactement les détails. Mais donc, pour les gens, s'il n'y a pas l'usage de l'objet bouteille, cet objet-là est autre chose. C'est un pochoir, c'est une massue, c'est...
Ça devient un objet extraordinaire.
Oui, et ça devient un objet extraordinaire.
Qui est d'ailleurs le lieu de
oui, oui.
L'objet de discorde.
Oui, oui, tout à fait.
Qui va dans, en fait, cet objet qui est quelque chose de formidable.
Tout à fait. Oui, parce que cet objet est projeté dans un monde où il n'y a pas de lien. Et donc, les gens, du coup, doivent jeter sur l'objet des identités qui nous semblent, je dirais, extravagantes. Parce que on ne peut pas prendre l'objet tel qu'il est. On est obligé de projeter une identité dessus. Donc, si j'ai jamais vu de bouteille, que je suis en Afrique et qu'il y a un machin qui me tombe du ciel, en plus, et que la chose arrive, donc je suis... Je peux pas ne pas le remarquer, en quelque sorte. Je peux pas dire « c'est rien ». Et donc, je vais dire toutes sortes de choses. Et finalement, je pourrais arriver à des usages complètement, on pourrait dire presque délirants de la chose. Et d'une certaine manière, nous, on est quand même un peu comme comme les Africains qui prennent des bouteilles sur la tête dans la savane reculée, vis-à-vis des événements qui se passent. Parce que vis-à-vis de beaucoup d'événements, on n'a pas eu tout la clé de l'ensemble des causes réelles de ces événements. Vis-à-vis de ça, on projette immédiatement du désir dessus, c'est-à-dire on dit oh, ça a évolué comme ça, mais moi je voudrais que ça évolue d'une autre manière et tout, même sans avoir compris de quoi il se passait, ce qui se passait, et donc immédiatement on est dans une forme d'engrenage. Et donc l'objet, ou les choses, ou les états d'âme, ou ce que vous voudrez, donc ils ont à la fois ce caractère de vacuité que j'ai un peu expliqué, ce caractère de provisoire. Et on voit que bon, c'est pas du tout le même angle. Ça aboutit à un résultat qu'on pourrait dire qui est un peu proche. Et le troisième membre de ce système, alors là on a quand même du mal à le traduire en français, donc on le traduit de manière purement littérale. C'est ce qu'on appelle le milieu, le centre, qui est d'ailleurs représenté en chinois. Je crois qu'à la base c'était une sorte de cible, je crois, avec la flèche qui est fichée.
au centre de la cible. Donc c'est un rectangle qui est traversé par une barre. Ça se dit jong, chu en japonais. Et alors ça, c'est une grande affaire. Je veux dire, ce concept-là, pour les bouddhistes, il y a de quoi s'en servir, méditer et tout, pendant à peu près une existence ou plusieurs. Parce que, alors c'est pas facile à expliquer, mais je vais essayer de le faire peut-être de manière un peu simple, mais de façon quand même permettre de le comprendre. Parce que donc moi je suis là, et puis je dis, voilà, pour différentes raisons, j'estime que cette table, elle a un caractère provisoire, parce que ça n'a pas toujours été une table, et que ça n'en sera pas toujours une. Je dis, elle a un caractère vide, un caractère de vacuité, parce que c'est des choses que je lui prête et tout. Et le caractère de chu, c'est-à-dire aller au centre de la chose, c'est de, à un moment donné, pouvoir avoir une réflexion, je dirais presque inverse, et que je me dise à moi, mais attention, tu n'es pas extérieur à cela. Toi aussi, tu as ce caractère de vacuité et ce caractère de provisoire. Tu n'es pas un expérimentateur qui serait en dehors de l'expérience, tu n'es pas un spectateur, tu es engagé dans la vie, dans le monde. Et peut-être même d'une manière plus, au moins pour toi-même, plus intense que la table. Et donc, cette qualité, c'est-à-dire le fait de ne plus... Donc là, c'est plus le philosophe en position. Le fait de ne plus pouvoir juger des choses d'une manière extérieure, et de, au contraire, pouvoir se dire à l'inverse, eh bien, je partage le caractère provisoire et le caractère vide de la table, et parce que je les partage, je vais comprendre la table. Enfin, bon, appliquer une table, ça semble un peu idiot comme démonstration, mais ça peut être appliqué à une situation, appliqué à un être, appliqué à soi-même, appliqué à des tas de choses. C'est-à-dire non plus renier les choses qui nous dérangeaient, mais qui nous semblaient quand même terriblement vraies, mais les accepter, les appliquer à nous-mêmes, et en faire un moyen de compréhension. C'est-à-dire que là, on passe de la démarche immunitaire à la démarche participative, d'une certaine manière. C'est exactement, on pourrait dire, le contraire de ce phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de projection de l'identité sur les choses. C'est-à-dire non plus parce que je suis mu en premier par la peur, je veux projeter des qualités sur les choses et, sans les comprendre, me construire un monde qui me semblera intelligible. Et quand il y a des choses qui se passent et qui ne rentrent pas dans la logique de ce monde intelligible, mais on fonctionne tous comme ça, que je me suis construit, eh bien je me construis un monde intelligible un peu d'une autre manière, et toute ma vie, je passe ma vie à faire l'acrobate et à construire des mondes que je reconstruirai pour essayer de comprendre et de faire quelque chose. Et au moins, je profite au moins de mes propres erreurs. Mais c'est-à-dire d'accepter le caractère provisoire et vide de soi-même pour arriver à une autre dimension de compréhension, c'est-à-dire accepter de retirer l'armure. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps dans la, je sais pas comment on peut appeler ça, la stratégie ou je sais pas quoi, où il a semblé que le mieux, c'était de se protéger des coups. Et vu que le corps est quand même une matière fragile, il a semblé qu'au fur et à mesure, ce qui semblait le mieux pour se protéger des coups, c'était de faire différentes sortes de protections. Dans un premier temps, je pense que ça a bien marché, parce que les protections, c'est pas simplement au Moyen-Âge, qu'ils avaient comme des côtes de maille ou des choses comme ça, c'était des protections relativement efficaces et relativement légères. Et donc, les personnes qui revêtaient ce genre de choses, alors ça ne les protégeait pas de tout, loin de là, enfin, ça aurait été bien, mais ils pouvaient bouger, ils pouvaient courir quand d'un coup le danger devenait trop terrible. Mais après, on passe au stade beaucoup plus technique, et donc on a inventé de plus en plus des protections de plus en plus dures, de plus en plus lourdes, et où les personnes risquaient de moins en moins d'être atteintes, mais en même temps, on a beaucoup diminué leur mobilité, c'est-à-dire que les gars se retrouvaient à bouger dans des espèces d'équipements tout à fait utiles, et quand ils ont été enfin confrontés à des choses, à des armées beaucoup plus légères ou à des choses comme ça, ils étaient complètement engoncés dans leur protection. Donc dans un premier temps, c'est bien le système qui fait qu'on pense à se protéger au niveau de la vulnérabilité, mais après, on tombe dans une sorte de surprotection et qui nuit complètement au mouvement, à la réactivité vis-à-vis du milieu. Et donc, ce triple système de vacuité provisoire et milieu, c'est ce qu'on appelle la triple également, ce qu'on appelle la triple observation du cœur. Et ça, c'est une pratique du bouddhisme qui a été développée dans un mouvement chinois, mais qui a eu une très très grande influence sur tout le bouddhisme, qui est un mouvement chinois du 6e siècle, qui s'appelle l'école Tiantai, du nom d'une montagne qui est dans le sud de la Chine, qui s'appelle Tiantai également. Et dans ce mouvement, on a développé donc cette triple observation du cœur. Le cœur, ce qu'ils entendent par cœur, en fait, c'est l'esprit. Alors, si vous voulez, ce mouvement a influencé tout le, je reviendrai parfois dessus, mais toute la suite du bouddhisme. Pratiquement la plupart des mouvements bouddhistes dont on entend parler aujourd'hui ont pris des choses dans le Tiantai, qu'ils l'avouent ou non, c'est encore un autre débat. Mais une fois que ce genre de... C'était un mouvement vraiment de réflexion extrêmement profonde, et une fois que ça a été fait, on ne pouvait pas revenir en arrière. C'est-à-dire que les autres penseurs bouddhistes qu'il y a eu par la suite ont été obligés de tenir compte des découvertes des maîtres du Tiantai. Alors, la manière dont c'est transcrit actuellement, ça s'écrit T-I-A-N-T-A-I. Tiantai. C'est une montagne qui est dans la... où s'est réfugié l'un des fondateurs de cette école, parce qu'il vivait dans une époque qui était extrêmement troublée. Sixième siècle de notre ère. Hein.
Le bouddhisme s'est resté combien de temps en Inde? Pas longtemps, vous traduisez toujours par des termes chinois.
Oui. Le bouddhisme est resté en Inde, enfin on peut dire très actif, à peu près plus de 10 siècles. Ah. Si vous voulez.
Et la pensée n'était pas écrite, elle était
Ah si, quand on arrive au début du bouddhisme, il n'y a pas d'écrit, l'enseignement du Bouddha est un enseignement qui est oral, mais dès sa mort, dès après son décès, les principaux disciples ont jugé utile de se réunir et de fixer un peu les choses par écrit. Et ça, c'est, pour avoir une idée, c'est à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Alors, il y a du sanskrit, il y a du ce qu'on appelle actuellement le pali, donc qui est également une langue qui est très proche du sanskrit, donc c'est presque les mêmes mots, c'est un peu différent, et qui est encore une langue écrite qui est utilisée, par exemple, le pali, notamment au Sri Lanka, par exemple. Et donc, il y a toute une partie du canon bouddhiste qui est en pali, et la partie, on pourrait dire, la plus importante est dans le sanskrit, qui déjà à l'époque était une langue morte, était une langue savante à l'époque.
Oui. Mais c'est souvent
en chinois. Oui. Parce que, en fait, si vous voulez, moi je trouve, et ça on le trouve, je dirais presque uniquement dans le, que je connais du moins dans le bouddhisme, c'est-à-dire que il y a, du moins de ce que je connais, deux grands systèmes de pensée, deux grandes vertus culturelles de l'humanité, sur lesquels on a quand même une vue et qui remonte assez loin. Il y a d'un côté ce qu'on pourrait dire les peuples indo-européens, donc qui sont un ensemble, qui utilisent un ensemble de langues dans lequel, comme langue actuellement que nous connaissons, qui est la plus ancienne, c'est le sanskrit, ça ne veut pas dire que ce soit la langue mère des autres, et dans lequel vous retrouvez le latin, le grec, pour parler des choses qui nous concernent nous, et également le français, par exemple, pour avoir une idée. Par contre, il y a un certain nombre de langues européennes qui échappent à ça. Je crois que c'est le cas du hongrois, du finnois et du basque, je crois. Alors là, bon, ces gens-là, on ne sait pas d'où ils viennent. Enfin, il y a différentes hypothèses qui existent. Mais donc, vous avez ce premier gros bloc énorme, qui comprend quand même beaucoup de choses, et qui est le bloc indo-européen. Et dont nous sommes issus. Et puis de l'autre côté, vous avez l'autre bloc, qui est le bloc chinois. qui lui a complètement influencé tout l'Extrême-Orient. La Chine évidemment, mais aussi la Corée, le Japon, le Vietnam, etc. Et ça, vous voyez, c'est vraiment deux blocs qui obéissent à des logiques qui ne sont pas les mêmes, du point de vue de l'association des idées, du point de vue de la confection de la langue. Et en même temps, je veux dire, c'est des blocs qui ont regroupé énormément d'êtres humains. Parce que vous voyez, tous les gens qui, depuis l'aube de l'histoire, qui appartiennent ou à l'un ou à l'autre de ces deux blocs, à mon avis, vous avez, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas de statistiques, mais enfin plus de la moitié de l'humanité, même beaucoup plus que la moitié. Si on faisait par exemple le compte des individus vivant par exemple sur Terre à l'heure actuelle, qui sont ou des Indo-Européens ou des Chinois, bon, ça ferait quand même quelques milliards. Et donc, il y a eu, au travers du bouddhisme, c'est pour ça que souvent je cite ces deux à la fois, une interprétation, et je crois que c'est, de ce que je connais moi, c'est uniquement au travers du bouddhisme, une interprétation de ces deux cultures. Et le cocktail des deux à la fois a donné quelque chose qui, je trouve, est très, très unique dans l'histoire de l'humanité et qui, en même temps, a concerné énormément de gens. Parce que si vous prenez la pensée chinoise, ben vous avez, je sais pas, même dans l'Antiquité, à la même époque que le Bouddha, un certain nombre de penseurs très très importants, par exemple Confucius, mais quelqu'un comme Confucius, bon, ben c'est vraiment un penseur chinois. Lui, il est influencé par, que je sache, hein, par rien qui soit indo-européen. Et si vous prenez de l'autre côté, je sais pas, le fondateur du jainisme ou je sais pas quoi, bon, ben là vous avez un indien et il est vraiment indien, il n'y a pas de problème. Et dans le bouddhisme, finalement, il y a eu cette espèce d'alchimie, on pourrait dire, qui s'est passée et qui a fait que d'une doctrine qui ne s'est jamais définie comme étant indienne, parce que même déjà dans le monde indien, elle était un peu à part, quoi, un petit peu en rupture avec le reste, cette chose-là, finalement, a émigré par un parcours extrêmement long, extrêmement compliqué, a émigré jusqu'en Extrême-Orient, et là, a repris une vivacité, et il y a eu un développement considérable. Et donc, finalement, quand nous, de notre 21e siècle, nous voyons les choses rétrospectivement vers le passé et que nous étudions la pensée bouddhique, je pense qu'on est bien obligé, d'une certaine manière, de tenir compte à la fois de ce développement très important qui a eu lieu en Inde et de celui qui a eu lieu en Chine. Et que les deux se complètent mutuellement. Dans beaucoup d'écoles chinoises, par exemple, je parlais du Tiantai tout à l'heure, mais ces gens-là, bon, même d'une manière qui nous semble à nous imaginaire, mais disent que leur premier patriarche était justement des défenseurs indiens. Même s'il n'y a pas eu de contact physique entre les deux, et parfois il y a des écarts de quelques siècles, mais donc ils pensent que vraiment ce qui était à l'origine de leurs écoles, ce sont des défenseurs indiens. Et c'est vrai que cette espèce de, je pourrais dire, de juxtaposition de la pensée indienne et de la pensée chinoise, à mon avis, est ce qui a peut-être donné sa richesse et son originalité au bouddhisme. Et une autre chose, bon, qui a donné sa richesse et son originalité, finalement, c'est que c'est une tradition qui a compris beaucoup de penseurs et orienté de manière différente et sur vraiment beaucoup de siècles. Et donc, quand on arrive déjà, par exemple, à l'époque du Tiantai, il y a eu 10 siècles de penseurs. Enfin, non seulement de penseurs, mais des gens qui ont fait vraiment des exercices spirituels très, parfois très difficiles. Et donc, il y a quand même une capitalisation, on pourrait dire, au fur et à mesure du savoir, des expériences humaines, les problèmes ont été quand même digérés à travers beaucoup de vies, quoi. Alors, pour continuer sur notre affaire de production conditionnée, je crois qu'on a à peu près tout vu, et puis bon, bah, vous allez avoir sans doute des réflexions pour aborder des points plus en détail ou des points particuliers. Comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez, ce que j'exposais aujourd'hui, c'est la théorie générale, et que vous trouvez finalement dans pratiquement aucun bouquin en français. Parce que la théorie
précise de la production conditionnée, peut-être plus intéressante que ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ce que vous trouvez par exemple dans les différents livres que j'ai cités au début. C'est en fait la production conditionnée, c'est ce qu'on appelle les 12 liens causaux. Parce que là, ce système dont je vous ai parlé aujourd'hui de manière extrêmement généraliste, je pense, dans les 12 liens causaux, ils sont appliqués à sa propre vie. Et là, on va voir les constituants de ce système dans la vie humaine, individuelle, émotive, etc., de chacun d'entre nous. Et ça, c'est ce qu'on verra à partir de la fois prochaine. Malheureusement, de la même manière dont le calendrier a été fait au mois d'avril, il n'y a pas de session. Et donc, si vous voulez bien, on se retrouvera pour en parler le 4 mai. Et par contre, si vous avez des questions ou des réflexions concernant ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que je pense que c'est quand même des choses, c'est pas du poids léger, hein, je vous écoute. Alors, d'une manière, comment dirais-je, très postérieure, parce que le lamaïsme, enfin du moins ce qu'on appelle le bouddhisme tibétain, si mes souvenirs sont justes, a commencé, je crois, vers le 8e ou le 9e siècle de notre ère. C'est-à-dire que vu les... et pourtant, si vous voyez, ça semble tout à fait étrange, parce que, comme je vous l'ai dit au début, le Bouddha est originaire d'une région qui est en contrebas du Népal actuel. Et donc, il était au pied de l'Himalaya. Il est donc dans une des régions frontières de l'Inde, et donc il était juste en dessous du Tibet, enfin du Népal en l'occurrence, enfin de la chaîne himalayenne. Et pendant un grand nombre de siècles, le bouddhisme a fait des efforts énormes pour éviter le Tibet. Alors je crois qu'il y a eu des missionnaires qui sont partis au Tibet, mais vraiment ils n'avaient pas de succès. Et donc quand on voit je suis pas très bon géographe ou quoi que ce soit, mais enfin quand on voit le parcours qui a fait qu'ils ont évité, à la place d'aller en Chine, on pourrait dire en ligne droite, bon, vous direz, il y avait quand même l'Himalaya, c'est pas de la tarte, mais c'est franchissable, c'était franchi par des choses, etc. Par exemple, les Tibétains descendaient régulièrement en Chine faire des razzias, etc. Ils étaient considérés comme des guerriers tout à fait redoutables. Et donc, c'était pas franchissable. Si on pouvait descendre en Chine, on pouvait de l'autre côté monter au Tibet, descendre de l'autre côté. Mais le bouddhisme n'a pas présenté pour les Tibétains, pour le peuple tibétain, un grand attrait pendant extrêmement longtemps. Et comment ? A priori, moi je connais pas très bien leur histoire, mais ils avaient des pratiques essentiellement magiques. Et donc on était, bon, comme beaucoup de peuples des hauteurs ou de la steppe, on était dans un ensemble de pratiques, oui, chamaniques, tout à fait, etc. Et donc vis-à-vis des systèmes philosophiques du bouddhisme, je crois qu'ils n'avaient pas encore de... Je sais pas si c'est une écriture d'ailleurs, je crois que si. Et donc, le bouddhisme a évité le Tibet pendant extrêmement longtemps et n'a pas présenté un grand intérêt pour les Tibétains. Et finalement, par exemple, alors que le bouddhisme est beaucoup plus proche du Tibet, le lieu de création du bouddhisme, il est arrivé au Tibet bien après être arrivé, par exemple, au Japon ou en Corée, qui sont complètement de l'autre côté de l'Asie, quoi, beaucoup plus à l'est. Et donc, le bouddhisme, en plus, qui est arrivé au Tibet, n'a pas, je veux dire, c'était le bouddhisme qui avait à une certaine époque, donc c'était une forme de bouddhisme qui était extrêmement influencée. Je vous ai cité tout à l'heure le penseur indien Nagarjuna. Donc eux, ils ont eu un bouddhisme qui était extrêmement influencé par ce penseur. Mais par contre, ils n'ont pas profité d'une certaine manière de la suite. C'est-à-dire qu'ils ont eu la chose qui leur est arrivée sous une certaine forme, mais ils n'ont pas bénéficié, vu que c'était un peuple quand même terriblement à l'écart. Ils n'ont pas bénéficié de toute la suite qu'il y a eu de penseurs, je sais pas, chinois, japonais, coréens, etc. Et donc c'est une forme de bouddhisme qui restait dans un état tout à fait spécifique, on pourrait dire, jusqu'à deux dates importantes. La première qui est le 13e siècle, où là, les Mongols ont conquis la Chine. Donc c'est l'empire de Kublai Khan, puis de Gengis Khan, et donc il y a la dynastie des Yuan qui s'implante en Chine, et qui est une dynastie étrangère et qui vient de peuples qui, pour les Chinois, sont complètement non civilisés, des barbares, hein, qui viennent d'au-delà de la Grande Muraille. Et c'est les hordes mongoles donc, qui défilent sur la Chine, dans un premier temps la Chine du Nord, et ensuite qui conquièrent toute la Chine. Les Mongols se sont sinisés au contact des Chinois, et ils ont voulu adopter une religion comme les Chinois. C'est-à-dire qu'à l'époque, une religion, c'était pas seulement quelque chose de, qu'on verrait aujourd'hui de spirituel, mettons. C'était également un mode d'organisation, un mode de compréhension de la société, de la famille. C'était beaucoup de choses à la fois, de l'histoire aussi. Et donc, les Mongols, qui arrivent armés en Chine, une fois qu'ils sont implantés, décident d'une part de faire appel à des administrateurs en grande partie étrangers, parce qu'ils se comprennent bien qu'ils n'étaient pas énormément aimés des Chinois, que tôt ou tard il y aurait des mouvements de résistance, et donc il y a même eu parmi des conseillers qui ont été des gens qui venaient de pays même assez lointains, des Arabes, même Marco Polo par exemple, même un Vénitien, quoi, ça paraissait incroyable, hein. Et donc ils ont voulu également. Ils ont pris des noms chinois, ils ont créé une capitale d'un point de temps qui s'appelait Yanjing, qui en fait est devenue Pékin à l'heure actuelle, donc tout à fait dans le nord de la Chine. Et ils ont voulu mettre une sorte de coloris, de vernis chinois par-dessus leurs mœurs, et donc ils ont décidé de prendre également une religion. Alors, ils ne savaient pas quoi prendre, ils n'avaient pas envie d'aller du côté du confucianisme ou du taoïsme, parce que là, c'est des religions qui sont vraiment labellisées chinoises, et donc, ils sont tournés vers le bouddhisme. Et là, ils ont fait des concours de bouddhistes, et donc ils ont fait appel aux gens des différentes sectes, des différentes écoles, et qui sont venus leur faire essayer de montrer pourquoi, devant une assemblée de princes mongols, ça avait des scènes incroyables, hein. Pourquoi leur courant à eux, parce que déjà le bouddhisme c'est vraiment des courants très très différents et parfois très opposés les uns aux autres, et pourquoi leur courant était meilleur que celui d'à côté. Et là-dedans, finalement, les Tibétains qui eux étaient des bouddhistes un peu fraîchement convertis, un peu comme eux, ont fait une grande impression sur les Mongols. Il paraît qu'ils ont fait également un certain nombre de numéros de, je sais pas quoi, un peu comme dans les cirques, quoi, ou de numéros qui dépassent ce qu'on voit d'habitude. Et des trucs extraordinaires, quoi, vraiment extraordinaires. Évidemment, vis-à-vis des vieux Chinois, des vieux bons Chinois qui racontent des trucs philosophiques, les Mongols, les Tibétains qui arrivaient à faire des miracles, ça leur a semblé nettement plus intéressant comme histoire. Et puis, les Mongols étaient quand même dans un phénomène davantage de recherche, ces gens plus pragmatiques, on pourrait dire, peut-être, d'une certaine manière. Et donc, les Mongols, et c'est vrai encore aujourd'hui, hein, ont adopté le bouddhisme tibétain. Et ça paraît incroyable, parce que quand on voit entre le Tibet et la Mongolie, il y a quand même l'énorme pavé de la Chine. Et donc les Mongols, donc c'est la première date importante, les Mongols ont adopté le bouddhisme tibétain. Et puis la deuxième date importante qui est beaucoup moins drôle pour les Tibétains, c'était l'invasion par les troupes chinoises après la révolution culturelle. Ouais. Et donc là ça s'est passé extrêmement mal, si on peut dire, en ce sens où il y a eu un phénomène d'invasion et d'assimilation qui fait que, par exemple, à l'heure actuelle, au Tibet, il y a davantage de Chinois que de Tibétains. Donc là, c'est plus qu'une invasion, quoi. C'est-à-dire que dès lors que dans son propre pays, il y a davantage de gens qui viennent numériquement. Et puis, dans un premier temps, les premières personnes qu'on a importées, c'était les soldats. Ensuite de quoi, on a vidé les prisons chinoises pour les envoyer au Tibet. Donc, c'était pas des gens qui avaient tous des mœurs très, très pacifiques. Et donc, ça a été un pays qui a été extrêmement sinistré, extrêmement martyrisé même. Et donc, les Tibétains, enfin du moins une partie de l'élite sacerdotale tibétaine, a dû s'exiler. Et donc, ils sont descendus sur l'Inde. Et là, finalement, en tant que peuple martyrisé, en tant que peuple exilé, et qui venait quand même des peuples qui venaient vraiment d'une sorte d'autarcie, ils ont été confrontés d'un coup au monde extérieur. Et finalement, ils n'ont pas eu d'autre solution que de, on pourrait dire, ou disparaître, ou alors présenter un attrait pour le monde extérieur, c'est-à-dire devenir dans le monde extérieur, dans le monde qui devenait les leurs, parce que dès lors qu'on est exilé, le monde extérieur, ça devient le monde dans lequel on doit vivre soi-même, présenter un intérêt pour pouvoir présenter un dialogue. Et finalement, à cette époque-là, je pense que en très peu de temps, finalement, le bouddhisme tibétain a changé énormément de nature. Et finalement, on pourrait dire d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est occidentalisé, je ne sais pas si c'est le terme. Oui, oui, oui. Et donc, pour eux, c'était, on peut dire, les deux grands chocs avec l'extérieur. Le premier qui était sans doute un choc, on peut dire, positif, qui était le fait que l'Empire chinois, sous l'égide des Mongols, donc l'élite mongole qui gouvernait la Chine au XIIIe siècle, a adopté le lamaïsme, le bouddhisme tibétain. Et donc, du coup, c'est pour ça que, par exemple, même dans la cité interdite à Pékin, vous avez une sorte de... Comment ça s'appelle ce monument purement tibétain, tout blanc, là, une sorte de pagode, enfin, mais c'est pas une pagode, parce que un dagoba, et donc qui reprend effectivement la forme des stupas indiens, mais donc qui est propre à l'architecture, et même dans la cité interdite, vous avez un truc comme ça, donc ça date du... Alors je sais pas à quelle époque c'était construit, mais ça date de ce qui s'est passé au XIIIe siècle.
J'ai l'impression que comme il y avait beaucoup de réfugiés tibétains au Népal...
Oui.
Oui. Il y a beaucoup de relations entre des intellectuels occidentaux qui fréquentaient le milieu réfugié tibétain,
puisque
moi je les connais, et donc ils revenaient en France.
Moi, ce que je pense,
dans la connaissance des Tibétains, grâce avec le voyage à Katmandou.
Et puis à l'époque, les gens n'avaient pas tellement de lien avec le bouddhisme chinois qui était également martyrisé en Chine par Mao et ses. Et les gens qui le suivaient. Mais je crois que là où, peut-être pour les Occidentaux, il y a quand même c'est une erreur de perspective, d'une certaine manière, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'en ayant affaire au mouvement purement tibétain, que c'est un mouvement qui, même vis-à-vis du reste de la population de l'Asie, je ne sais pas combien de Tibétains, mais moins de 10 millions, hein, pour à peu près, hein, je ne suis pas démographe, ni géographe, ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment un tout petit... bon, ça ne s'empêche pas, on peut être petit et avoir de grandes qualités, hein, je veux dire, mais c'est quelque chose qui n'était absolument pas représentatif, comme je vous l'ai dit, des 10 siècles qui séparent la vie du Bouddha, par exemple, du début de l'école Tiantai en Chine. C'est-à-dire que du coup... et alors c'est vrai, bon, moi quand je me promène, si vous voulez, dans les rayons de librairies consacrées au bouddhisme, par exemple, je sais pas, enfin, dans les grands magasins de livres, hein, je vais pas citer de marque, mais quand je vois un bouddhisme, bon, bah, vous avez 2 tonnes de livres tibétains, 3 bouquins sur le zen, et quasiment c'est tout, et puis peut-être une traduction d'un texte originel du bouddhisme. Et donc là, il y a quand même, on a l'impression, au moins au niveau quantitatif, c'est quand même, la vue est un peu faussée. Parce que si vous allez dans un rayon consacré au bouddhisme, dans les pays bouddhistes, hein, je sais pas, en Chine, au Japon, où vous voudrez, hein, ou même à Ceylan, eh ben vous trouverez pas, vous n'aurez pas la même chose qu'ici, quoi. C'est comme si vous allez dans un, je sais pas, enfin, dans le rayon christianisme, mettons, je sais pas, dans un pays quelconque, et vous auriez un truc consacré à vraiment tout le rayon qui serait occupé par un mouvement très très spécifique. Non, non, je dis pas qu'ils sont pas intéressants. Hein. Je me permettrai pas d'ailleurs de porter des jugements de valeur. Je dis que quand on regarde le rayon librairie comme ça, il n'est pas représentatif de la pensée de ce qu'a été le. Et si vous voulez, par exemple, je m'étonne qu'il y ait, mettons, beaucoup de grands penseurs du. Là, je vous ai parlé par exemple du Tiantai, vous ne trouvez pas un seul bouquin sur le Tiantai. C'est comme si vous alliez dans un rayon de philosophie quelque part et que vous ne trouvez pas un seul bouquin de Platon. Vous ne trouvez pas un seul bouquin de, je sais pas moi, de Descartes, tout, vous dites, le rayon, il est peut-être pas très complet. Alors, ça veut pas dire que les gens qui ne sont pas Platon sont inintéressants, mais c'est-à-dire qu'on peut difficilement...
Si...
Oui, s'il n'y a pas Platon, s'il n'y a pas Nietzsche, s'il n'y a pas Descartes, etc., bon, là, quand même, on fait l'impasse sur les produits lourds, là, quand même. Enfin bon, c'était une aparté. Hein.
Je n'ose pas poser ma question.
Si, si. Allez-y.
Quelle différence faites-vous, ça n'a pas de
oui,
sens,
oui,
entre le nirvana
oui.
Et le paranirvana? Cette notion simpliste que nous lui donnons de paradis, c'est pas tout ça.
Non.
Il y a de l'inclusion, mais
Oui, j'ai fait. Alors, étymologiquement, hein, on dit que le parinirvana, donc, c'est l'extinction suprême, c'est lorsque le Bouddha meurt. Le Bouddha a déjà atteint le nirvana, c'est-à-dire qu'il a déjà atteint, on pourrait dire, l'extinction de son vivant, mais il y a un moment donné où il va mourir, et donc c'est ce qu'on appelle le grand nirvana. Et donc il disparaît. Et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la littérature bouddhique, parce que notamment il y a des sutras, c'est-à-dire des textes qui recensent les prêches du Bouddha ou les événements de sa vie, et où donc dans beaucoup on assiste à ce qu'on pourrait appeler sa disparition, sa fin, son agonie, et ce sont les sutras du grand nirvana. Et le nirvana par lui-même donc désigne l'extinction.
J'en prie. Je voudrais savoir, oui, une question. Pourquoi en Occident y a-t-il une confusion,
oui,
entre le Bouddha
oui, oui.
Et le Bouddha, quand il arrive en disant, en Occident, oui, le dieu de la prospérité de la Chine, qui est,
oui,
le gros,
oui,
occident, alors que le Bouddha est un ascète,
oui, oui,
pourquoi y a-t-il confusion et pourquoi souvent on y arrive en disant, en appelant le dieu de la prospérité en Chine, Bouddha?
Oui. Ah, je pense que c'est autre chose. Hein, je pense que vous faites allusion un peu à cette statue qu'on voit souvent des immortels.
Je fais allusion à ce dieu qui est très important.
Oui. En fait, tu es le.
Et qu'en Occident, souvent, on confond avec.
Même la représentation du Bouddha sous forme de statue, même. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a eu un mouvement. C'est-à-dire qu'à la base, vous avez, on pourrait dire, le personnage historique du Bouddha. D'accord ? C'est-à-dire la personne, en général, c'est celui qu'on appelle le plus souvent, parce que c'était le nom sous lequel souvent était connu de son vivant. Oui, souvent on dit quand même Shakyamuni. Oui, alors on va voir que c'est donc le. Shakya, c'est le nom d'un clan. Et Muni, c'est le sage, le solitaire aussi. C'est aussi, je pense, qui a donné le moine, je suppose, même en français. Et donc, c'est le sage des Shakya. Donc, il appartenait au clan des Shakya. Vous voyez, ce n'était pas un nom personnel, c'est une manière de le désigner. Cette personne était également désignée parfois sous le nom de Siddhartha. Certains disent que c'est peut-être un nom apocryphe, parce que Siddhartha, c'est-à-dire celui qui a atteint son but. Mais c'est peut-être aussi son vrai nom, hein, parce que souvent on peut donner à des enfants un nom qui semble de bonne. Parfois vous trouvez aussi le même personnage, Gautama. En général, on écrit Chéhel d'ailleurs, Gautama. Et là, ça aussi c'est le nom d'un clan. Hein. Et là, plutôt, c'est un clan brahmaniste en fait, auquel cette famille était rattachée. Donc, je passe sur les détails, donc tout ça en fait désigne cette même personne. Qui est le Bouddha historique qui a vécu et sur lequel on donne des dates, et finalement on a quelques indications sur sa vie, d'accord? Donc, ça c'est un premier personnage. Ensuite de quoi, sur ce premier personnage, la ferveur populaire, le fait de vouloir faire du merveilleux et tout, a créé des détails. Pour le prêche des gars qui partent dans toutes les directions et qui essaient d'enseigner le bon peuple, quoi. Et donc on a créé des détails merveilleux. Alors que c'était juste le fils d'un clan de guerriers dans une région reculée d'Inde. Bon, on a fait un prince ou un roi. Ça fait toujours plus chic. Hein. On prête qu'à ses points d'argent. Et donc au fur et à mesure, donc on a grossi ce personnage. Et donc dans la représentation, c'est vrai également, on l'a grossi même physiquement, parce que de la fête qu'il y avait au début, on a fait un alabar. Et donc, au fur et à mesure, on grossit. Donc là, on s'éloigne complètement d'une réalité historique. C'est-à-dire qu'on en fait le prince d'un état qu'on n'aurait pu assister nulle part, hein, parce que à l'époque en Inde, il y avait des vrais princes, mais là, c'était. On a quand même sur cette époque-là des données historiques. Hein. Et donc,
On rajoute du merveilleux, donc on lui trouve tout le temps des trucs, donc il serait né, je crois, en sortant directement sur le côté du flanc de sa mère, en ayant déjà une taille correcte. Il aurait fait trois pas en avant en disant je ne sais plus quoi exactement, et les fleurs, ça serait mis à fleurir. Donc vous voyez, bon, là on est dans l'image d'épinal, hein, et plus on en rajoute, mieux c'est, plus il y en a. Et ça va.
Donc,
oui.
Il y a eu un film
d'Isabelle Bertrand. Oui, 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 tout à fait. Donc là, bon. Oui, oui, donc là, on est dans le merveilleux. Et je veux dire que qui aurait, à mon avis, extrêmement déplu au personnage principal, qui, on l'a vu, c'est quelqu'un qui s'entraînait à la lucidité plus qu'au détail fabuleux. Et puis, la ferveur populaire en demandant, ça n'a pas suffi. Alors là, bon, ben, toujours plus loin. On a décidé que ben on va pouvoir le dupliquer d'une certaine manière en lui créant des récits qui seraient liés à ses vies anciennes. Et là, tout ce qu'on a créé, qu'on a rajouté, le fils d'un prince, le truc, le machin, il est né sur le côté, etc. Eh ben on en refait. Alors là, on lui trouve toutes sortes de vies dans le passé. Il aurait été une, je sais pas quoi, toutes sortes d'animaux fabuleux, même parfois. Enfin, donc là, on invente à fond. Lui, il n'a jamais raconté des fariboles de cet ordre-là. Et donc On en rajoute. Et alors le propre de cette recherche du merveilleux, c'est qu'on en rajoute, mais c'est pas assez non plus. Et donc il faut toujours alimenter, et il y a à un moment donné, il y a quand même un problème de vraisemblance. C'est-à-dire qu'on peut alimenter le merveilleux, même avec des populations qui sont un peu frustres. D'emmener même le paysan n'importe quoi, il dit non, moi il ne faut pas me faire croire des choses aussi extraordinaires, et ça ne marche pas. Et donc, alors, tout ça pour en arriver à notre histoire, après lui avoir dans un premier temps rajouté des détails sur sa propre vie, glorifiant, ensuite de quoi on lui crée des vies antérieures à dormir debout, et ensuite de quoi on va encore plus loin dans cette affaire, et on dit, eh ben oui, mais il y a ce Bouddha qui a existé, effectivement, ce Shakyamuni, mais il y a d'autres Bouddhas. Et alors là, on crée un grand coup, qui est le... parce qu'il en parle dans certains sutras, dans certains textes, il parle d'autres Bouddhas qui ont été antérieurs à lui, pour bien montrer qu'il n'est pas l'inventeur du bouddhisme. Et on va créer, entre autres, un personnage qui a eu... Il a probablement eu des influences non indiennes, on pense iraniennes, où il y a quand même des mouvements comme le mazdéisme, etc. Et on crée un personnage, un Bouddha, et qui est celui qui est le plus représenté, qui s'appelle Amitabha, Amitayus. Amitabha, c'est un peu l'infinité. Hein. A, privatif. Amita. Et ça va être une traînée de poudre. Et l'amitisme, donc, qui est le mouvement qui révère le Bouddha Amita, ou Amida en japonais, est devenu la religion en Asie qui a eu le plus grand succès. Et donc, ça s'est répandu. Quand on regarde, c'est stupéfiant. On ne sait même pas par quel moyen. Et l'amitisme est une forme de bouddhisme qui est probablement la plus répandue, et où le Bouddha qui est vénéré n'est plus le créateur du bouddhisme sur Terre, n'est plus Shakyamuni. Et c'est le Bouddha Amita qui apparaît dans un certain nombre de textes et comme étant un Bouddha des régions de l'Ouest. Et là, en fait, dans cette forme de bouddhisme, nous avons des influences très importantes, là on pourrait dire plus occidentales, et déjà plus iranienne, mazdéiste, etc. Probablement, donc cette forme de bouddhisme plus récent, je pense qu'il commence de se développer un peu en Chine, mais pas comme un mouvement autonome, pareil, à peu près vers le 5e siècle, 6e siècle, et un ou deux siècles après, c'est un mouvement autonome, et sans doute l'un des mouvements les plus puissants qui existent. Et en faisant l'amidisme, on arrive tout à fait à une autre conception d'une certaine manière que celle qu'il y a dans le bouddhisme, et qui est une conception qui est assez... Ce qui est important, c'est de renaître au paradis, qui est le paradis du Bouddha Amita. Et quel que soit, et ce Bouddha Amita est une sorte de personnage plein de compassion pour les hommes et pour les souffrances des hommes, et en plaçant son espoir dans la force du Bouddha Amita, on peut renaître dans son paradis. Et donc là, il y a vraiment une notion de paradis qui est quand même une notion qui est assez étrangère au bouddhisme. Et donc c'est pour ça que je pense que ça vient vraiment d'influence non indienne ou non chinoise. Enfin, je traduis par paradis, en fait, c'est une notion qui est une terre de la félicité. Et donc, les personnes qui placent leur espoir dans le Bouddha Amida, qui récitent l'invocation amidiste, pourront, même s'ils ne le font qu'une seule fois dans leur vie, de préférence au moment de leur mort, pourront renaître dans le paradis du Bouddha Amida. Bon, il y a d'autres choses, hein. Là je résume quand même les trucs, c'est, je ne vais pas non plus en donner une vue trop caricaturale ou étroite. Et donc, il y a ce personnage qui est créé d'Amida, et il va y avoir d'autres personnages qui vont être créés, notamment dans le bouddhisme tantrique. Et là, finalement, on est quand même très loin, extrêmement loin du personnage historique. Et donc, vous avez ce triple mouvement. C'est-à-dire, il y a le personnage historique avec l'enseignement qui est le sien, etc. Vous avez ensuite des détails sur sa vie, des détails formidables, fabuleux qui sont donnés. Ensuite de quoi, ça ne suffit pas, on a beau grossir le trait, on passe donc à ses vies antérieures. Et donc là, on lui crée plein de vies, plein de choses formidables. Et puis ensuite, ça ne suffit toujours pas. Et alors là, on a même des personnages, je dirais, divins, quoi. Donc c'est il y a eu ce mouvement exponentiel. Je ne sais pas, il faudrait voir la représentation dont vous parlez, parce que je pense que vous confondez. Sur les représentations dont vous parlez, il est chauve ou pas? Alors c'est pas le Bouddha, ça. Ça c'est les trucs qu'on trouve dans les trucs chinois, et ce sont des. Ça représente certains disciples du Bouddha, qui sont ce qu'on appelait des Aras, et je crois que qui normalement étaient des gens qui avaient renié tous les désirs et tout ça, et donc qui n'étaient pas des gros, enfin, j'en sais rien, mais enfin, je suppose. Et ensuite de quoi, là, une certaine, je sais pas quoi, une certaine bonhomie populaire, comme on trouve en Chine, les Aras, au fil des générations, les Aras, donc au début, on voit des groupes d'Aras. Ce sont des personnages très, très hiératiques, très, avec des visages extrêmement creusés, etc. Et puis finalement, la bonhomie populaire s'en est emparée, les a mélangés aussi avec parfois des choses qui venaient un peu du taoïsme. On disait que certains vieillards recouvraient des sortes de corps d'enfants. Donc vous voyez, ils ont des corps un peu comme les bébés avec des gros bras un peu. et tout, et finalement ça donnait ces personnages un peu riants, mais ça c'est ce genre de personnages vous les trouverez quand même difficilement ou rarement, je pense, dans les temples bouddhistes en Chine. Oui, comme je dis, donc c'est quelque chose qui oui. Oui. À mon avis, c'est plus de l'art populaire, enfin de l'art, je sais pas si c'est le terme, mais enfin c'est plus de l'imagerie populaire que. Mais je crois pas que les Asiatiques se représentent le Bouddha comme ça. Mais quand même, la manière dont ils se le représentent est très loin du personnage tel qu'on peut l'imaginer. Parce que si vous voyez par exemple les représentations du Bouddha, des Bouddhas de grande taille, de très très grande taille. Je pense à Kamakura par exemple au Japon, il y a une statue qui est immense, il y en a une autre à Kyoto, et où là finalement.
C'est le zen ça, Kamakura, c'est le zen.
Non, Kamakura, enfin c'est le zen aussi, mais ça a été là, pendant peu de temps la capitale du premier shogun du Japon, à l'aube du 13e siècle. Et c'était une époque de grande, de très très grande activité intellectuelle, et où un certain nombre de mouvements rénovateurs du bouddhisme sont apparus. Alors il y a eu une consolidation du zen qui était importée de Chine, avec des moines chinois de haut rang qui sont venus. C'est là également que une forme importante du bouddhisme japonais, qui est le nichirenisme, le bouddhisme de Nichiren, est né à Kamakura. Et c'est là aussi où l'amidisme a subi une véritable révolution par un prêtre qui s'appelait Shinran. Et il n'y a pas eu que ça. Ça, si vous voulez, c'est des grands noms, mais en dehors de ces grands noms, il y a eu également des petits maîtres du bouddhisme, je dis petits maîtres sans aucune. C'est pas péjoratif, hein, du bouddhisme de Kamakura. Et cette période du bouddhisme de Kamakura, qui, dans les différents mouvements, au moins a connu ou l'émergence de bouddhisme nouveau ou la rénovation du bouddhisme,
en environ 100 ans est retombé. Et tous ces gens-là qui étaient apparus, ce sont les gens qui ont développé le Zen, que ce soit les Nichiren, que ce soit les disciples de Shinran pour l'amidisme, tous ces gens-là avaient en commun quand même de critiquer assez violemment le bouddhisme établi qu'il y avait avant eux. Et finalement, non seulement ils le critiquaient, mais ils proposaient complètement d'autres règles pour l'organisation des moines, pour tout ça, etc. Et 100 ans après, le soufflet retombe. Et vous avez, dans ces nouveaux mouvements qui étaient nés, vous avez de nouveau une sorte de poids qui correspond, qui fait que tout ça redevient des mouvements, entre guillemets, respectables, comme les mouvements qu'il y avait avant et contre lesquels eux étaient en réaction. Et les choses retombent, et ça devient davantage lourd, et ça correspond à peu près avec la fin de l'ère de Kamakura, qui aura duré un peu plus de 100 ans. Et après, dans l'histoire du Japon, on entre dans une période de guerre civile, très très lourde et qui a duré très longtemps.
Pourquoi représentons les mudras comme
ça ? Ah, les mudras ? Oui. Alors ça, ce sont des choses que l'on trouve dans une forme du bouddhisme que je n'ai pas évoqué beaucoup jusqu'à maintenant, bon, sauf qu'on a parlé un peu du lamaïsme, qui est le tantrisme. Donc le tantrisme, c'est-à-dire les aspects, magiques un peu du bouddhisme. Il y a des formules que les gens récitent, même s'ils ne comprennent pas la formule, mais juste le fait de la réciter, c'est bien. Et donc, pour les tantristes, donc qui sont des formes de bouddhistes, qui recherchent des pouvoirs, je sais pas comment dire, surhumains, pour eux-mêmes, pour... il y a l'idée que et ça on le trouve aussi un peu dans le Zen, que le message du Bouddha s'est transmis en dehors d'une certaine manière des textes. C'est-à-dire que les textes, alors c'est même une phrase qu'on trouve dans le Zen en disant qu'ils disent que les textes, les sutras, sont un doigt qui regarde, qui montre la lune, et que le sage regarde la lune et l'idiot regarde le doigt. Et donc, chez les tantristes, il y a cette idée que le Bouddha a transmis un ensemble de choses, mais en dehors des textes. Et parmi ces choses qu'il a transmises, il y en a certaines qui étaient liées à ou bien des paroles, mais qu'il voudrait que pour leur phonétique, si vous voulez, pour le son qu'elles produisent, ce qu'on appelle des mantras, ou des dharanis. Les mantras, c'est plutôt court, les dharanis, c'est plutôt long. Et du coup, même si on ne comprend pas, même si c'est une langue qui n'existe plus, mais il faut réciter les mots. C'est des abracadabras, hein, c'est des formules magiques, hein, ça existe partout. Et l'autre chose aussi, c'est que dans ces choses que le Bouddha a transmises, donc en dehors du sens, hein, en dehors de la signification, il y avait également des postures qu'il avait, et notamment des postures des mains, et que ces postures auraient été codifiées, et que donc en reproduisant, c'est bon, moi je suis pas un expert de ce genre de choses, mais en reproduisant ce genre de gestes, on peut arriver à une sorte de gestuelle spécifique. Et donc, alors là par contre vous avez toute une symbolique, parce que quand vous allez dans les statues, vous avez différents gestes comme ça, etc. Mais chacun de ces gestes a une signification. Et à la fois une signification d'un point de vue symbolique, mais pour les gens qui font ça, c'est-à-dire qu'eux-mêmes font cette espèce de, de posture. Il y a d'autres points, où est-ce que nous terminons comme cela pour ce soir? Oui, oui.
Mathieu Carrière, le secrétaire du Dalai Lama. Non, c'est Mathieu Ricard. Ah, c'est Mathieu Ricard, je me trompe alors.
Je connais, mais je ne connais pas bien, donc ce serait assez présomptueux de ma part. Je sais pas, il faudrait que je lise pour vous dire, si vous voulez, donc... Mais je sais pas, j'avoue, bon, ça peut sembler un petit peu... j'ai pas beaucoup lu, la vérité, parce que j'ai pas lu, donc je serais un petit peu audacieux de... Oui. Je sais pas, moi, si vous voulez, j'ai assez peu lu, sauf il y a longtemps, mais à l'époque, il n'était pas actif, les ouvrages de vulgarisation un peu sur le bouddhisme. Et puis, à une certaine époque, enfin, c'est quand j'ai commencé, j'étais relativement jeune, je voulais m'intéresser au bouddhisme, j'ai lu ça, et... Alors, j'ai pas lu, donc, vu que lui, à l'époque, il écrivait pas, parce que moi, j'avais 17 ans, hein, à cette époque-là, donc... mais enfin, j'ai lu des choses qui existaient. Bon, à l'époque, c'était quand même beaucoup moins connu que maintenant, hein, le bouddhisme en Occident. Et tout ça, ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim. Alors, donc, je sais pas. Donc, mais en même temps, bon, j'assimile pas cette personne dont j'ai pas eu les œuvres, hein, à ce que je lis là. Et puis finalement, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que le... et puis c'est la vie aussi qui m'a porté comme ça, que je ne pourrais apprendre qu'auprès de... que dans l'apprentissage du bouddhisme, il y a quelque chose qui est extrêmement humain, et, et personnel, et de personne à personne. Et que donc, moi-même, je ne pourrais apprendre que, ou en allant, enfin les deux à la fois, vers des livres, mais là qui sont les textes, et en même temps, en fréquentant des personnes qui ont appris ces textes avant moi, et qui ont une expérience dessus. Et... parce que si vous voulez, si on compare avec la, je sais pas, la pensée occidentale, hein, je vous parlais tout à l'heure de, je sais pas, enfin de grands penseurs de l'Occident, je sais pas, mettons Platon ou qui voudrait, hein, Nietzsche ou n'importe quoi, ben il y a surtout des tas de bouquins qui ont été écrits sur Platon et certains qui sont extrêmement brillants, mais à un moment donné, ben, si je m'intéresse à ça, il va quand même falloir que je me confronte moi-même avec les livres qu'a écrit Monsieur Platon lui-même. Je pourrais pas faire l'impasse là-dessus. Et que finalement, ce n'est qu'après que j'aurais lu ces livres-là que j'aurais une idée plus précise sur des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Et donc, qu'il faut passer par les textes eux-mêmes, et que le problème, c'est que si ces textes viennent d'époques très reculées et de régions culturelles avec lesquelles on n'a pas tellement de rapport et quoi, je peux faire beaucoup de confusion. Et donc, j'aurais besoin, pour les comprendre, d'avoir de temps en temps l'aide de personnes qui ont appris ça. Ben, il commence à y en avoir quand même de plus en plus. Il y a quelques-uns, et puis des textes fondamentaux qui sont traduits en français. Je vous ai parlé la fois dernière, je l'ai mis dans ma liste bibliographique du Dharmapada, par exemple. C'est vraiment passionnant. Il y a d'autres. Et je voulais parler aussi du livre de Barreau, André Barreau, En suivant Bouddha. Et ça, je trouve que c'est des livres de présentation qui me semblent passionnants. Parce que là, d'une part, c'est des livres dans lesquels vous avez énormément de traductions de textes et traduits très très bien par quelqu'un qui a un usage de la langue littéraire française tout à fait expert. Et qui est quelqu'un qui a beaucoup étudié la pensée indienne et les textes eux-mêmes. Et donc ça, je crois, bon, bah, c'est des personnes qui ont un rôle un peu de passeur. Mais ce ne sont pas des vulgarisateurs, si vous voyez, ce genre de personnes. C'est-à-dire que le truc, vous lisez un bouquin de Barreau, il ne va pas vous dire, voilà, moi ce que je pense du bouddhisme, c'est bien, c'est pas bien, soyez bouddhistes comme moi, tous ensemble, etc. Je caricature un peu, hein. Mais donc, il va vous donner des clés pour comprendre, et dans ces clés, il y aura des choses auxquelles... enfin, moi, j'avoue, quand je l'ai lu, il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé. Donc ça, c'est de l'apport, quoi, où est-ce que je veux dire. Voilà.